Bonsoir, bonjour, bonsoir à tous, bienvenue pour cette nouvelle édition de Radio Shtoub après quelques petits jours, deux semaines je crois quand même d'interruption, hein, parce qu'on a dû quand même supporter beaucoup de choses depuis ces deux semaines. Deux matchs magnifiques du Racing à Nantes, tout d'abord défaite 2-1 et surtout le clou du spectacle vendredi dernier, Clermont-Strasbourg, le 19e reçoit le 20e et c'est le 19e qui trépasse, qui perd 3-0, le 19e le Racing qui passe 20e. Bref, le Racing est à son plus bas historique, le Racing est dernier de 2e division et voilà, mon temps enthousiaste en tout cas ne traduit pas cette réalité, en tout cas il essaye de quand même donner un soupçon de vie, de passion à toute cette situation qui est très difficile pour nous tous. Pour en parler, pour en débattre, parce qu'il y a aussi des choses à discuter, tant sur le terrain, tant sur la pelouse, tant sur le public, etc. Plein de choses. Malgré tout, le Racing reste un club mythique. Le pilier de Radio Shtoub, hein, il est là, il est à nouveau là, il peut pas faire autrement que d'être là, hein, même quand on veut pas de lui, il est quand même là. Et c'est Conan qui est de retour ce soir. Salut Conan.
Ouais, salut. Pourquoi tu me fais toujours quand j'ai la bouche pleine?
Parce que, écoute...
je mange des favoris là en ce moment.
Des favorini.
Favorini. Favorini.
Écoute, voilà, mais bon favorini à toi, mais néanmoins, tu es là pour parler du Racing. Donc, excuse-moi de t'adresser la parole.
Non, mais d'habitude, tu me mets toujours en dernier quand tu présentes les gens. Tu présentes d'abord les nouveaux et puis.
Et ben. Et ben voilà, tout, ça c'est tout l'art du contre-pied. C'est comme le Racing. Hein, c'est, voilà.
Je te soupçonne d'avoir fait exprès.
Hein. Ah, pas du tout. C'est... Franchement, c'est vrai en plus. J'ai pas fait exprès, donc un petit nouveau aussi, Gigos, qui n'a jamais été convié, qui va présenter une
d'ailleurs,
rubrique.
D'ailleurs, j'ai une idée de rubrique, en fait,
ouais. La revue Shtoub, peut-être.
Ouais, peut-être. Enfin, je sais pas comment l'appeler, je pensais aussi, qu'est-ce qui se passe sur le Shtoub, ou la revue du Shtoub, c'est une bonne idée.
Ouais. Bah la revue du Shtoub, ce sera, on va la baptiser comme ça, la revue du Shtoub, en exclusivité sur Radio Shtoub, dès ce soir, grâce à Gigos. Et là, pour le coup, un habitué de Radio Shtoub, il est là à chaque fois, commente à chaque fois l'actualité du Racing.
J'ai construit d'ailleurs ce studio.
Alors le studio, voilà, qui a été construit, l'architecte...
En 67, à l'époque.
En 67, voilà. C'est Julius 68, voilà.
Oh, c'est beau ça.
Voilà. Oh, l'applaudit.
Je représente que 6-8, quoi.
Que le 6-8,
ouais. Que même une partie du 6-8.
Bah écoute, désolé pour toi, mais...
Ouais,
en tout cas, merci d'être là ce soir, j'espère que tu vas bien.
À l'image du Racing.
À l'image du Racing. D'accord, ça promet, alors. Ouais. Ça promet beaucoup. Mais sans transition, rentrons dans le vif du sujet. Oui, Conan.
Ouais, tu présentes pas Philippe?
Philippe? Ah bah Philippe,
Philippe,
tu participes, Philippe?
Bah oui. Ouais, oui, je
viens. Non, mais il est là, effectivement, il est là, mais je pensais qu'il restait dans l'ombre ce soir. Pour gérer tout ce qui était son, tout ce qui était...
Il faut toujours présenter le réalisateur. Hein,
et en tout cas, Philippe, effectivement, qui participe à cette émission ce soir, une nouvelle fois parmi nous, donc... Je te présente, Philippe.
Bonsoir.
Ça va?
Oui, ça va. Je vais essayer d'être plus vif qu'un Sikimic, plus adroit qu'un Kitter. Mais bon.
Écoute, je suis optimiste par rapport à ça. Je suis optimiste pour toi.
Oui, ça va pas être trop compliqué en même temps. Donc,
Voilà, c'est ce que je sous-entendais. En tout cas, n'hésite pas à intervenir dès que l'envie viscérale se fera ressentir. Voilà.
C'est quoi, c'est viscéral.
Parce qu'on dit souvent sortez-vous les tripes, mais sortez-vous les viscères.
Sortez-vous les viscères, voilà. Ouais. Extirpez-vous les entrailles, j'ai envie de dire quoi. En tout cas, Gigas, voilà, ta rubrique, la revue du Shtoub, sans transition. Toi, qu'est-ce que
j'ai un générique là.
Un générique.
On va essayer là avec c'est un truc hyper sophistiqué écoute, là. C'est un générique que Cartman m'a préparé en privé.
Bah merci à Cartman en tout cas pour ce petit générique.
On dirait un mix entre Shaft et Patrick Sébastien.
Voilà.
Je pense qu'il appréciera les références Patrick Shaft.
Voilà, en tout cas, on salue Cartman et on te laisse la parole Gigus à présent pour la revue du Shtoub.
Cartman qui est en pleine vendange. En pleine vendange.
Voilà.
Donc, nous saluons tous les vignerons.
Le Racing aussi qui est en pleine vendange.
Et Nicolas Vauvergne.
Alors, yes. Après deux mois de boycott, la revue du Shtoub a décidé de faire son grand retour. En effet, les menaces de remplacement planaient sur la rubrique. La concurrence est rude, et une émission de cuisine exotique présentée par Pascal Egibert devrait prochainement emboîter le pas au blog footballo-philosophique de Jean-Marc Furlan. À moins que ce soit Philippe qui ne soit l'invité privilégié de « Faites entrer l'accusé ». Bon, d'ailleurs, c'est sur Fufu que j'avais envie de débuter cette revue du Stoub. Forcément un peu spécial, puisque le Racing, je rappelle, est dernier de seconde division. Donc tout d'abord, merci Jean-Marc. J'ai eu un ami troyen au téléphone il n'y a pas longtemps. Il kiffe le national, les horaires sont sympas, les adversaires aussi. Surtout, les rencontres ne sont plus télévisées, donc c'est du foot, du vrai, du foot viril. Mais revenons aux moutons. Ce bon vieux JM parle tactique sur son blog, sur lemonde.fr. Réflexion sur la Ligue 1 et ses systèmes de jeu. Un article que le Stoub n'aurait pas renié, avec ses bons mots et ses saillies bien senties. Exemple. L'observation m'impose évidemment de faire confiance aux journalistes de la presse spécialisée, étant moi-même dans l'impossibilité d'être présent sur tous les stades de Ligue 1. Et moi-même d'ajouter ton impossibilité à être présent sur le banc d'un stade de Ligue 1. Pas mégalo pour un clou, Jean-Marc Nounard, comment, pendant son stage d'entraîneur, il faisait la nique à Raymond et René, Domenech et Girard, en compagnie du major Deschamps, pour lui expliquer l'intérêt de la défense à 3 et non à 4. Non, au contraire, l'intérêt de la... je sais plus. Ouais, l'intérêt de la défense à 4 et non à 3, c'est ça. Nous, avec Furlan, c'est toujours un peu compliqué. Mais passons, car ce sont les commentaires du blog de Jean-Marc qui nous intéressent. En particulier celui-là d'un internaute aigri, et on le comprend. Donc rédigé le 21 septembre 2009 à 17h par Romulo Marquez Antonelli. Cher ami du Grand Est, cessez immédiatement vos perfidies. Ne voyez-vous pas que notre ami Jean-Marc a enfin trouvé sa voie? Un métier où il peut à loisir gloser sur le jeu et sans aucune conséquence, un métier où il peut transmettre sa passion pour l'esprit du jeu à autre chose que des abrutis de supporters entachés de la survie du club. Pardon. Un métier où le forfait SMS est sûrement compris dans le package. Package, c'est le package en français. Un métier où il peut rester en contact du milieu du foot et surveiller paternellement le petit Grégory accomplir sa mission de chat noir à l'OGCN. Auriez-vous pu trouver dans votre vie de mangeur de choucroute frustré un poste correspondant autant à votre profil et vos motivations? Alors cessez les railleries et admirez la résilience de cet amoureux du beau jeu et de ce communicant né, qui a enfin trouvé sa voie et se lance avec enthousiasme dans une prometteuse carrière de pipoteur. J'ai hâte de le voir commenter les matchs de L2 avec Grégory comme partenaire. Sinon, en attendant, en voyant notre club mourir, il doit bien rigoler, comme quoi il était peut-être pas si catastrophique en gestion de groupe que sa communication laissait penser. Donc voilà, les 500 000 euros déboursés sont enfin rentabilisés, la vérité est rétablie. Et d'ailleurs, la vérité sort souvent au Brésilien, c'est ce qui se dit à Boulogne. Oh, oh, là. Boulogne, le seul club qui a vu jouer R 500 000.
Ouais, effectivement. Ouais.
Allez, hop, on passe au Racing. D'après vous, quel potentiel ont les joueurs du Racing, que ce soit physique ou technique? Voici la question que pose Sirius67. Kitter au merguez, Bezaz à la semoule, Abadi derrière le bar, Pelé au djembé, Sikimich aux apéros et Jana en DJ. D'après Yonker Karst, les joueurs vont choper samedi soir, ça c'est sûr. Ce dernier tente d'ailleurs la passe de 2 en renchaînant sur quels seront les nominés à la Branlette Academy. Alors, c'est qui a la plus grosse, Yonker? En tout cas, Nivek, mets-lui tout de suite fin au débat. Tu devrais te calmer et tu commences à nous pomper l'air avec tes branlettes et autres. Donc ça, c'était dans le topic sur le potentiel physique et technique du Racing qui a été modéré par modérateur.
Hein ouais, je sais pas, c'était pas
bon. Bon, alors tout de suite, la rubrique délation du Stoub. D'ailleurs, le gars qui a balancé le plus d'insultes et qui, d'après sa voix, devait avoir la cinquantaine, a déclaré qu'il intervenait de temps en temps sur le Stoub, si ma mémoire est bonne. On veut le nom du vilain canard. RCS Forever réclame des noms. Jean-Marie publie immédiatement un démenti. C'est pas moi. Soleil 7 également. Bibi 57, quant à lui, présente un alibi en béton puisqu'il est en ce moment banni. Bien sûr, le bannissement s'applique aussi à Radio Bleu Alsace. Hein.
Et à Radio Stoub aussi.
À Radio Stoub aussi. Bon, deuxième rubrique de la deuxième partie de la rubrique d'élation. Les voisins de Jaff râlent parce qu'ils rentrent super tard. Quel esprit de compétiteur. Il faut qu'ils se rendent compte que le football est un métier professionnel. C'est normal qu'ils fassent tout le temps de la merde. Alors, point. GG, cherchez les joueurs en boîte de nuit, leur mettez un bon coup de pied au cul, au cup, tiens, j'avais pas vu la faute. Un bon coup de pied au cup, qui ferait du bien à nos joueurs. Et hop, au lit. Collabo ad 2, hein, qui nous gratifie de cette petite citation sur notre ami Jaff. Enfin, Conan, qui après avoir tourné le dos à Gilbert Grèce, relève sa jupe et révèle son amour pour le gym. Bah, je les aime bien, moi en fait les niçois. Maintenant, s'ils descendent, Grégory Paisley, passeur décisif ce week-end, sera officiellement le meilleur challenger du championnat. À ce niveau, ça devient phénoménal. Allez, c'est parti pour le Radio Stoub le plus trash de l'histoire. À vous les punks à chiens du micro, profitez-en tant qu'on est dernier.
Ouais. Ah bah ce sera pas trash et ce sera pas glauque. Hein.
Ah, moi, jamais.
Hein ah moi j'ai la pêche, hein. c'est dingue, je sais pas.
Nous allons débattre en tout
cas. Ah ouais,
cordialité.
Cordialité, dans le rire, dans l'enthousiasme, et dans la chanson,
etc. Dans fair play.
Fair play. Ah non, ça non. Ah non.
Bah si, quand même.
Non.
Bah arrête.
Bah ouais, enfin bref.
T'as du pire qu'un italien, toi.
Ouais.
Bien bon, dans un esprit Paisley, alors.
Dans un esprit Paisley, si on veut.
Une belle passe décisive, hein. Je sais pas si vous avez vu le.
De Paisley ?
Ouais.
Ah non, j'ai pas
ils ont perdu 3-1 à domicile et il y a Paisley qui fait un débordement sur la gauche et qui fait un centre.
Ah ouais, déjà le débordement à gauche c'est suspect, alors le centre.
Ouais, ah, non, mais voilà, j'ai jamais vu faire
mais
ça.
C'était vrai, passe décisive.
Ah ouais, ouais. Il fait un débordement, il fait un centre, genre le ballon qui se lève et qui va sur la tête du joueur qui la met au fond. Quoi. Donc il arrive à lever le ballon.
C'est-à-dire que c'est un geste qu'on a plus vu à l'Emeno depuis.
Voilà.
Depuis. Fou, quoi.
Depuis que Papin est plus entraîneur.
Depuis 79, ouais. Depuis Gilbert Grèce.
Voilà, depuis Joël Tanter. En tout cas, nous passons, après cet intermède Grégory Paisley, on n'arrive pas à se détacher de ce joueur tellement on l'a aimé. On passe ces deux matchs de cette semaine. Hein,
il y a eu des matchs ?
Ouais, bah il y a eu il y a eu quelque chose, en tout cas des matchs, je sais pas.
Donc on n'a pas marqué de points. Hein.
Non, on a marqué un but, mais on a pris 5 buts au total de nouveau, donc une défense qui continue de prendre l'eau, une attaque plutôt inefficace, malheureusement.
Ouais.
Non, mais en tout cas, voilà, je sais pas ce que vous avez à dire. Moi, je vous laisse la parole. Hein. Nantes, Clermont, deux désastres, un peu moins visibles à Nantes parce qu'il y a eu que 2-1. Et surtout à Clermont que là, on se dit bon, ils vont réagir, ils vont réussir à faire quelque chose contre la Lanterne Rouge. Et en fait, non, ils perdent 3-0, sans envie, sans ressort, ils sombrent. Voilà, jusqu'à où peut-on aller
hein. Le Titanic.
Voilà. Alors, Conan, tu as la parole.
Bah, j'ai la parole. Bon, bah, qu'est-ce que je dise. Hein. Dire contre Nantes encore, perdre 2-1 contre Nantes, ça me dérange même pas trop.
C'est normal même presque.
Hein, ouais, c'est presque normal, même là, Nantes on n'a jamais gagné là-bas. Nantes c'est peut-être le favori hein, pour la remontée. Et enfin, c'est un des.
C'est quand le favori hein.
Oui, bon, Nantes c'est une des grosses écuries. Et voilà, même pour un prétendant à la montée, qu'on devrait être, en théorie. bah, perdre 2-1 là-bas, c'est pas quelque chose d'infamant. Maintenant, ce qu'il fallait, c'était le gros test, c'était le match de Clermont. Moi, franchement, je me disais, bon, bah, Clermont, voilà, ils vont décoller, ils vont enfin décoller. Puis en fait, non, hein, ils dominent un peu la première mi-temps, et puis ils se prennent un but, et c'est fini. Ce qui, à mon avis, c'est plus dans la tête qu'autre chose, parce que je me dis, c'est pas possible qu'on soit, c'est pas normal qu'on soit si bas.
Alors, est-ce que c'est dans la tête vraiment, Gigas? Dans la tête ou dans les jambes, ailleurs?
Non, moi je pense que c'est aussi dans la tête, parce que les joueurs sont pas plus mauvais que ceux de Clermont, hein, qui sont mauvais, quoi. Enfin, il y a Ekobo qui joue à Clermont, donc ça donne un peigné du niveau. Je connaissais aucun joueur à part Ekobo. Bon. Après, j'ai l'impression que les gars de Clermont, ils avaient plus envie, d'après ce que j'ai lu sur les forums clermontois, en deuxième mi-temps, ils sont sortis un peu les tripes. La première mi-temps a vraiment été d'un niveau pitoyable des deux côtés. En deuxième mi-temps, les gars de Clermont, ils ont dû se faire secouer dans le vestiaire. Ils ont commencé à jouer, et Strasbourg, ils ont regardé jouer, ils ont pris un but, et ils n'ont pas réagi. Enfin, c'est ce que j'ai lu comme réaction. Donc, ça m'étonne même pas.
Yuliu, petite réaction. T'as la bouche pleine toi aussi, mais bon.
Je ne suis pas brésilien, je
te dis. Ouais.
Tout de suite. Pourtant, Yuliu, c'est vrai que ça pourrait.
C'est roumain, c'est roumain.
Yuliu.
C'est pas au Brésil le 68.
En tout cas, ton regard sur.
Moi, ce qui m'inquiète surtout, bon, au-delà de la défaite contre Nantes, qui, comme d'illustres choubistes l'ont dit, n'a rien de dramatique, c'est que il n'y a pas de fond de jeu, il n'y a rien, pas d'âme, il y a pas de niaque, en deuxième mi-temps on a été transparent alors que Nantes a pas non plus mis un super Pressing. Un piercing aussi. Je repensais à Amandine en fait.
Ouais, ouais.
Elle avait un piercing?
Ouais.
J'ai même pas capté.
Ah, ouais. Amandine, qu'on salue peut-être si elle écoute Radio Shtoum. Une charmante rencontre pré-émission. Enfin bon, bref, enfin.
Ouais,
voilà. Voilà.
Non, mais c'est vrai que.
On poursuit. Moi non plus.
Moi non plus.
Eh ben, personne n'a vu le pressing du Racing non plus.
On regarde. Ouh. Voilà.
Oh.
Ouais. Faudrait un jingle comme ça pour.
Ouais.
Ils ont un piercing dans les pieds.
Comme un Jeep, les pieds percés quoi. Non, c'est vrai que je veux dire, il y a rien quoi. Je veux dire, il y a.
Chat percé.
Je veux dire, Nantes qui. Je veux dire, ils sont quasiment baladés en deuxième mi-temps. Et Racing, je veux dire, qui était incapable, que ce soit d'ailleurs à Nantes. Clairement, j'ai pas vu le match, mais je pense que ça devait être à peu près pareil. N'est pas capable de développer ne serait-ce qu'un fond de jeu et aucune solution quoi. Je veux dire, Jeannin qui essaye au fur et à mesure des dispositifs tactiques différents, d'essayer de relancer des joueurs qui étaient plus ou moins barrés, et on voit qu'il y a. Pas de solution, en tout cas, pour l'instant, quoi.
Conan.
Bah moi, j'ai l'impression qu'en fin de match, à Nantes, justement, Racing était pas mal physiquement, pour la première fois de la saison. Donc, il y avait eu une trêve de 15 jours, je me suis dit, bah tiens, ils ont bien bossé physiquement. Nantes, ils avaient l'air un peu à l'arrache à la fin. Et le Racing, on sentait qu'il y avait moyen de les bouger, les Nantais. Et effectivement, bah, le Racing portait le ballon. Nantes procédait par contre, mais le Racing n'arrivait pas à passer les 30 derniers mètres. Il y avait vraiment un sentiment d'impuissance. Et ce que j'ai. Bon, ça, ce qui m'a assez frappé sur ce match. Donc je me suis dit, bon, ça va, ils vont mieux physiquement. Ça va le faire à Caen, comme dirait Belaïd. Non, comme dirait Pesley d'ailleurs. C'est Pesley qui. Ça va le faire.
Pesley, ça va le faire. Belaïd, il a dit, il faut être patient.
Soyons patients.
Et toi qui étais à Nantes, hein, il est venu vous parler, Belaïd, ça s'est passé comment en fait?
Oui, alors à la fin du match, les joueurs sont venus, enfin une partie des joueurs, c'est-à-dire toujours les mêmes, un peu Sikimic, Rodrigo, Ba, Lacour et Belaïd, sont venus spontanément saluer les supporters malgré la défaite. Alors, ils ont essuyé quelques cris de haine, de déception.
Cris de haine.
Belaïd, lui, par contre, Belaïd est allé au devant et est venu parler en fait en disant les gars, on comprend, moi je viens juste d'arriver, c'est la merde, mais il y a un groupe, donc il a essayé de donner des, enfin, entre les excuses et la bonne volonté, il a essayé d'écouter un peu les supporters qui étaient énervés, et donc ça, bon, je pense qu'il l'a appris en Allemagne, hein, le fait de respecter un petit peu les supporters. Donc on voyait qu'il avait envie de bien faire, on voit que. Je pense qu'il a l'air touché, il aimerait bien que ça marche. Et donc il nous a dit, par contre, ce qui peut être intéressant, il nous a dit qu'il est vraiment l'équipe était rentrée à la Beaujoire, les jambes au coton, enfin, ils se chient dessus avant de rentrer au match parce que rien ne marche et que vraiment ils sont au fond du trou. Donc il nous a dit, il faut nous laisser le temps, ça va commencer à marcher. Mais ça, c'est un peu toujours le discours de footeux, c'est-à-dire que on dit, voilà, on travaille, on en veut,
on va
ça,
travailler,
un jour ça va marcher.
On va remettre le bleu de chauffe, voilà. Laissez-nous du temps, machin. Oui, c'est vrai que c'est toujours
c'est
les
mêmes. C'est discours classique, et bon, à un moment, quand ça marche pas, ça marche pas.
Et toi, t'avais l'impression qu'il était sincère, quoi.
Ouais, bah, Belaïd, c'était son premier match, je veux dire, ouais. Le gars, il vient.
Il est motivé, quoi.
Il est motivé, et on a senti aussi un peu cette âme de leader et de gars qui essaye de bouger les autres, qu'on voit rarement au Racing. Hein.
Alors, ça ne marche pas, mais j'aimerais bien savoir bah, précisément qu'est-ce qui ne marche pas. Est-ce que ça se situe au niveau de certains joueurs, d'un système, au niveau d'un déséquilibre entre le milieu, la défense, l'attaque. Enfin, je sais pas, moi, je lance le débat, mais qu'est-ce qui concrètement, parce qu'on n'a pas une mauvaise équipe sur le papier, il faut quand même. Qu'est-ce qui. Oui.
Il y a un énorme problème mental. Il y a quelque chose qui m'a frappé aussi pendant.
Le mental, peut-être, oui.
Pendant le match. C'est Yamagai Gay qui est sorti au courant du match. Ils l'ont interviewé sur Eurosport. Et on le sentait complètement défait. Il disait, mais c'est pas possible, on marque encore un but, on s'en prend deux derrière. Mais. Enfin, on sentait qu'il était vraiment désabusé, qu'il était vraiment. Ben, le joueur, il sait plus quoi faire. Et voilà, ça corrobore un peu cette histoire. Belaïd, il dit que les joueurs rentrent la
peur au ventre.
La peur au ventre. Bon, maintenant, c'est quand même des professionnels. Hein. Ils sont payés pour faire abstraction de tout ça aussi. Je sais pas ce que t'en penses, mais.
Bah, si je peux me permettre de réagir, oui, c'est que c'est qu'effectivement, quand on marque à chaque match et que derrière on arrive à perdre à chaque fois, et ils ont ouvert le score à plusieurs reprises, et à un moment on se dit que. Je sais pas, il y a un truc, quand on marque à Nantes, on se dit qu'on va tenir, il pourrait très bien tenir le résultat en étant mauvais jusqu'à la 90e minute, gagner 1-0, hold-up. Et non, ils en prennent deux et. Donc je sais pas, je pense qu'ils ont aussi l'impression qu'ils sont maudits et que quoi qu'ils fassent, ça va pas marcher. Et puis bon, bah, comme c'est un petit peu des joueurs de foot, ils se disent, oh, c'est trop injuste. Et puis voilà. Hein.
Ouais, ouais.
Yulu.
Bah oui, bon, il y a le mental, ça c'est évident. Je veux dire, il y a tout le côté l'entraîneur qui part, deuxième entraîneur qui va peut-être bientôt partir. Ça, je pense que ça doit jouer aussi dans le climat général du club. Mais après, il y a aussi un côté, je veux dire, sportif qui est peut-être aussi lié indirectement au mental, c'est qu'il y a une absence, moi, je pense, de quasiment de fond de jeu, quoi. Je veux dire, il y a quasiment aucun joueur qui peut. Après, ça c'est au niveau peut-être plus des individualités, mais il y a vraiment. J'ai l'impression qu'il n'y a aucun joueur qui peut faire la différence, quoi. Par contre, Nantes, où j'ai vu Bach qui a fait quelques remontées de ballon qui étaient un peu intéressantes, je veux dire, c'est un des seuls qui était capable de dribbler un adversaire, quoi. Je veux dire, j'ai l'impression qu'on en est là, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a plus des joueurs qui sont capables de créer, je sais pas, faire un décalage, passer, éliminer un adversaire, faire la différence, voilà. Et à partir du moment où tu as sur le terrain 11 joueurs qui, allez, on va dire qu'ils en veulent, même si c'est pas évident, on va dire, allez, ils veulent bien faire, mais ils sont là, ils sont tous à essayer de bien faire, mais il n'y en a aucun qui fait la différence. Alors c'est là, on tourne, on cherche, on balance à droite, à gauche, mais on n'avance pas, on ne crée pas la différence. Et c'est exactement ce qui s'est passé contre Nantes, quoi. Je dirais, il y avait Kébé qui faisait son dribble à la Kébé, là, je m'en parle dans un défenseur, j'essaie de.
Donc c'est un problème technique, quoi, c'est un problème technique. Il n'y a pas de technique dans cette équipe qui permette de faire la différence
dans le dribble. C'est un problème aussi, je sais pas, au niveau de. Peut-être de l'organisation du jeu, il manque peut-être des joueurs capables d'organiser ou de mener le jeu, d'accélérer le jeu quand il faut, de savoir faire la différence, quoi. Et ça, j'ai l'impression que ça nous manque. Et alors, je sais pas, est-ce qu'un Gargourov, mais je pense même que la solution ne viendrait pas d'un joueur ou deux, quoi. Il faudrait quand même qu'on ait quelques joueurs.
Le mal est collectif,
en fait. Voilà, oui, c'est ça.
Parce que moi, je pense que sur le papier, on a une équipe qui vaut largement mieux que la 20e place.
Ce matin dans le journal l'équipe de Caen qui a battu Ajaccio hier. Finalement, tu compares les effectifs de Caen et les effectifs de Strasbourg, c'est pas non plus. Enfin, Caen n'a pas une super équipe. Pourtant, ils sont premiers de.
C'est la Ligue 2, hein. Il n'y a pas d'équipe.
Il n'y a pas d'écart entre les effectifs qui, pour moi, justifie un tel niveau.
Non, mais pour moi, c'est complètement. C'est complètement psychologique, hein. Ça s'explique par les scénarios des matchs, hein, les matchs, hein, qui sont déroulés en début de saison. Bon, tout ce qui s'est passé en coulisses, on va y revenir, hein. Je pense qu'il y aura une large page au cours de cette émission. Et voilà, ça s'explique. Maintenant, ça fait partie de leur boulot de faire abstraction de tout ça aussi, hein.
Ouais, mais une équipe, un club qui où c'est le bordel dans les coulisses, où c'est le bordel. Au niveau de l'entraîneur et où c'est le bordel au niveau des joueurs, forcément, ça va être le bordel sur le terrain.
Ouais, non, mais c'est logique. Je dis,
j'aimerais rebondir. Je dis pas dans les deux sens. Je veux dire aussi, il peut y avoir une spirale. Bon, là, c'est peut-être le scénario utopique, mais il peut y avoir aussi une spirale positive qui veut que, voilà, après avoir enchaîné les mauvais résultats, une, deux victoires ou un ou deux bons résultats, ça peut déjà apaiser, on va dire, un peu l'ambiance. C'est sûr que si on commence à enchaîner les défaites, on aura chaque semaine des noms d'entraîneurs qui circulent. Si la situation, on enchaîne quelques bons résultats, on va déjà moins parler de changer d'entraîneur, on va déjà moins parler de reprendre le club. Donc la situation peut aussi être apaisée dans l'autre sens. Et ça, la clé, c'est les joueurs et l'entraîneur aussi. Et c'est pas les coulisses, c'est vrai que ça joue un rôle, ça c'est indéniable, mais ça peut aussi marcher dans l'autre sens. Ça, il faut pas l'oublier.
Alors, très bonne transition, parce que là, c'est vrai qu'on peut.
Excellente transition.
Ouais. On peut tourner en boucle, je pense, assez longtemps sur.
Comme un bagarre Kébé autour de la défense.
Philippe, peut-être, ouais. Non, mais je sais pas, tu veux parler, Philippe?
Ouais, non.
Un petit mot, ouais, si.
En fait, moi, je suis pas trop d'accord sur le côté mental par rapport au match qui vient de se dérouler, en fait. Parce que si on regarde, par exemple, le match de Nantes, Nantes n'a pas fait un très très bon match contre nous. Par contre, ils avaient deux joueurs devant qui s'appellent Darcheville et Zerka, qui ont fait gagner le match. Nous, on avait Lady devant, bon, qui est un bon joueur, mais.
Il a mis un super but, Lady, en plus.
Ouais, non, je l'ai pas vu, mais bon.
Si, il est beau.
Il est beau. Ouais.
Darcheville a fait trois accélérations à gauche, Zerka était bien placé, ça fait deux buts. Et mais en deuxième mi-temps.
Aboun aussi, penalty, qui a fait un énorme match en remontant pas mal de ballons, justement.
Contre, en deuxième mi-temps, une fois que Darcheville et Zerka étaient un peu limite physiquement, ben, Nantes, il y avait plus grand-chose. Le problème, c'est que nous, il n'y a plus grand-chose non plus. Donc, c'est pas forcément un problème mental, c'est aussi qu'on n'a pas forcément de joueurs vraiment décisifs, quoi. On n'a pas de joueurs qui sortent du lot, on parlait du problème mental, on n'a pas de vrai leader au niveau psychologique, on n'a pas non plus, je trouve, de joueurs vraiment décisifs. Alors que les saisons précédentes, notamment l'année où on était avec Papin, au début de saison, on avait un Moulungi qui nous marquait des buts à chaque match, bon, forcément ça nous faisait gagner. Là, on n'a pas de joueurs, on a eu Gay, mais bon, ça n'a pas suffi parce qu'à côté de ça, il y avait de gros problèmes défensifs, mais on n'a pas de joueurs décisifs. Quoi. Si on avait un Darcheville, par exemple, franchement, ce ne serait pas la même histoire. Donc, le problème mental, évidemment qu'il y a un problème mental. On peut même plutôt le comprendre. Au bout de plusieurs défaites, on peut comprendre que les joueurs commencent un peu à avoir des soucis de confiance. Mais c'est aussi un problème de pour reprendre un mot que disait beaucoup Furlan, c'est aussi un problème de compétence, quoi. On n'a pas les joueurs non plus vraiment capables de faire la décision, je pense, devant et derrière aussi. Voilà.
Donc c'est vraiment les joueurs, il n'y a pas de leader, il n'y a pas de...
Il n'y a pas de leader ni sur le plan mental, ni sur le plan technique, enfin du jeu, quoi. Donc c'est forcément... C'est, en fait, tout est linéaire, quoi. Les joueurs sont au même niveau. Voilà.
Puis, si je puis me permettre... un joueur qui est peut-être plus décisif, c'est Stéphane Cassard, qui a peut-être masqué pendant 2 ans ou 2 ans et demi les carences du Racing en sauvant des matchs uniquement sur ses arrêts. Et maintenant qu'il est redevenu un peu un joueur moyen, voire pas trop bon, le Racing, au lieu de gagner 1-0, il perd 2-1.
Ouais, c'est vrai que c'est des pistes.
C'est un tabou qui se... C'est un tabou, quand même.
Un tabou,
comment ça ? Cassard, c'était quand même un peu, le joueur... je dirais pas inattaquable, parce qu'on l'attaque pas vraiment, mais...
Il est pas éternel, Cassard.
Il y en a quand même quelques-uns qui depuis quelques années, disaient qu'il est pas éternel, qu'il va finir par vieillir.
C'est vrai qu'il y a des joueurs aussi
qui faisaient mentir ces gens-là sur le terrain, et gars, il fait...
Moi, ça fait un an que j'en parle, de la succession de Cassard,
c'était au moment de la renégociation de football. Bon, plus de bois vaut ce qu'il vaut, mais c'était quand même l'idée de se dire que faudrait peut-être penser à avoir une fois un gardien numéro 1 qui a le niveau d'un numéro 1. Parce que c'est vrai que Cassard est.
Bon, en tout cas, oui, c'est vrai que. Moi, Cassard, je suis désolé, c'est pas. Il reste quand même quelqu'un de. Pas d'inattaquable, mais de. C'est sûrement pas à cause de lui, à mon avis.
Moi, je me rappelle de.
Enfin, Cassard, il est peut-être moins décisif, disons, mais il y a aussi de plus en plus d'occases. On subit de plus en plus d'occases, donc forcément, en subissant de plus en plus d'occases, il en encaisse aussi plus qu'avant, quoi. Faut quand même voir que la défense est plus mauvaise que l'an dernier. Et encore à.
Pas sûr.
Aussi. Tu regardes le monde. Fais le ratio.
Fais
le ratio des buts encaissés. C'est les chiffres là qui parlent. Hein. C'est catastrophique.
Et à titre individuel, peut-être pas, mais à titre collectif, là, on n'a pas trouvé notre défense.
Mais il y a aussi un gros problème, c'est que au niveau de la récupération au milieu de terrain, c'est pas ça. Comme j'attendais beaucoup plus d'un Rodrigo. Quoi.
Bah, Rodrigo, c'est un fantôme par rapport à ce qu'on a connu.
Quand Marcos aussi. Marcos.
Quand on voit qu'on a. Je veux dire, qu'on n'a pas repris un Chérini. Gratuitement, bon après il y avait le salaire, mais.
Merci Gilbert. Hein.
Voilà. D'ailleurs, ça a été un des premiers coups de gueule de la saison, c'est-à-dire ce mec, je veux dire déjà des mecs qui veulent jouer au Racing, il n'y en a pas des masses. Si, bien sûr, si on vient des divisions inférieures, c'est toujours autant de jouer en division 2, mais un mec qui prend du plaisir au Racing, déjà en ce moment, il n'y en a pas énormément. Qui en plus, il a rendu de bons services, même s'il a aussi fait des matchs en dedans à l'image de l'équipe.
Bien sûr.
Mais il a été décisif aussi, et, je veux dire, c'est quelqu'un qui a un impact physique. Et on le reprend pas pour un Rodrigo qui, quand même, je veux dire, sortait d'une saison au Japon. Alors, même s'il a réalisé une saison énorme au Japon, je pense pas que ce soit le cas. Non. Ça reste le Japon, donc.
S'il avait fait une saison énorme, il serait toujours au Japon.
Philippe.
Ouais, non, juste pour revenir sur Chérini, à noter que Chérini, sa licence n'était plus valide. Donc, si quelqu'un au Racing s'en était rendu compte, avant le match ou même pendant le match, enfin non, avant le match, je pense.
Non, à la fin, je crois pour déposer la réserve.
On aurait pu peut-être récupérer les 3 points, mais comme personne n'a fait attention à ça, donc je crois, on reviendra sans doute sur l'organisation du club en général, mais voilà, Chérini qui a sa licence plus valide, qui joue tout le match, on aurait pu en profiter.
Ce qui monte encore qu'en coulisses. Hein,
voilà, c'est ça.
Non, mais à noter que la licence de Chérini est plus valide depuis juin, et que donc les 5 premières équipes qui ont rencontré Nantes auraient pu. Demander à faire invalider le résultat, et la seule personne qui s'en est rendu compte, visiblement, d'après ce que j'ai vu sur le forum Clermontais, c'est un bénévole qui gravite autour du USC Bastia.
Qui est au club depuis 30 ou 40 ans, donc.
Mais un bénévole.
Prôner la stabilité dans les clubs, c'est un bon exemple.
Donc voilà, autant, ça c'est aussi une belle image du football business professionnel, c'est un bénévole à Bastia qui met le point sur un truc que. Tous les autres clubs n'ont pas vu.
Déjà, ce qui est hallucinant, c'est qu'un club de haut niveau comme Nantes aligne un joueur qui n'a pas le droit d'aligner. À ce niveau-là, je trouve ça extraordinaire.
Et ça se trouve, on aligne 3 ou 4 qui ne sont pas qualifiés.
Et ça serait. Et d'ailleurs, tant mieux,
ouais,
peut-être. Hein.
Ouais. En ce moment, on aligne même 11 qui ne sont pas professionnels.
Voilà. Donc, voilà, déjà, à ce niveau, c'est hallucinant. Et puis, ce qui est hallucinant, c'est qu'il n'y a aucun. Enfin, pour parler de nous au Racing, c'est vrai qu'il y en a d'autres, mais nous, voilà, qu'il n'y en a aucun qui s'en rende compte, qui connaissent les règlements. C'est.
Le bénévole Kamadini va s'occuper de ça.
On a aussi un bénévole, voilà, qui arrive. Là, on passe peut-être à la rubrique suivante. Donc, le foot, le terrain, ok, on vient d'en discuter. Ça s'agite aussi beaucoup, évidemment, logiquement, en coulisses, après cette déconvenue Clermont avec des réactions de Ginesté qui, dans un premier temps, donc laissait sous-entendre que Jeannin allait sauter. Finalement, retour en, un peu en arrière, Jeannin reste. Et arrivée de Camadini, enfin arrivée, pas vraiment arrivée, mais promotion de Camadini en tant que coordinateur sportif, si j'ai bien compris, à titre bénévole. Ça s'est tombé lundi, donc hier. Voilà, que dire de ces soubresauts en coulisses, Ginesté, Jeannin, Camadini, enfin j'en sais rien, par où on commence, Conan?
Sur Camadini, bon, vous savez tous que j'étais un très grand fan de Camadini à l'époque où il jouait.
Et
en 2001.
Ouais, bon, c'est ironique hein, ce que je dis hein, pour ceux qui n'ont pas suivi. Hein. Bah bon, je veux dire, les grands joueurs ne font pas forcément des grands dirigeants et vice versa. Par exemple, Wenger était un joueur médiocre. C'est un très grand manager. Donc peut-être que Camadini, ça sera pareil. Simplement, bon,
je crois pas, mais
non, mais on va pas préjuger de sa compétence, de son absence de compétence. Hein. Je dirais, il débute. Il faut bien commencer un jour. Simplement, moi, ce qui me dérange, bon, au-delà du népotisme récurrent hein, chez Ginesté, je pense qu'il y a quelqu'un qui va le relever ici.
C'est quoi du népotisme ?
Le népotisme, c'est quand on place ses potes, sa famille et compagnie. Bon, moi, à la limite, ça me dérange pas plus que ça. Bon, je les bloquerai. Ce qui me dérange le plus, en fait, c'est d'un point de vue éthique. Camadini, c'est quelqu'un qui a quand même profité du système Leroy. À l'époque où Claude Leroy était manager, donc a fait des choses pas très légales sur le dos du club, s'est fait pas mal de pognon, et bon, il y avait un dossier dans l'équipe magazine où il était montré que Camadini avait trempé dedans. Ça me gêne un peu que quelqu'un qui est trempé dans le système Leroy devienne responsable de notre club aujourd'hui.
Et en particulier le nôtre, hein, parce que d'un club finalement.
C'est ce que je viens de dire, notre club.
Notre,
excuse-moi, j'ai bafouillé. Ouais, notre club. Hein.
Notre club,
ouais. À la décharge de Camadini, Strotim t'a repris sur le forum en disant qu'effectivement il a touché une espèce de rétro-commission de la part de Leroy. Mais bon, je crois que Camadini était arrivé et c'était sa prime de transfert et il a juste pas fait attention à la façon dont elle a été versée. Donc, Gérard Camadini, je veux pas le défendre ni rien, mais dire qu'il a trempé dans la magouille, on lui a dit tu signes, tu recevras 1 million, tu les reçois pas tout de suite, tu les reçois dans 6 mois. Bon.
Après le poste de Schrotim, je sais pas si t'as lu, t'avais un super poste de Jean qui expliquait bien.
Ouais, non, bah Jean.
Jean, il dit des choses très bien.
Bah alors, je ressortirai l'article de l'équipe, mais moi, le
poste de préciser Schrotim... un petit peu la chose, parce que moi, j'ai pas trop suivi l'histoire de Leroy Camadini. Qu'est-ce qui s'est passé à l'époque pour que.
Il y a eu des sommes occultes qui ont été.
Et pourquoi Camadini
Si je peux me permettre, ouais, il y a un article sur le Stoop qui en parle ouais. de cette affaire-là, qui est dans les archives. Pour ceux qui veulent connaître toute l'histoire, il faut aller regarder dans les archives du Stoum.
Oui, tout à fait. Hein. Et d'accord. Puis, il y a aussi dans les archives du Topic, vous avez tout le dossier hein, de l'équipe magazine qui a été publié en 2 ans, qui démontait tout le système Leroy.
Et c'est le Topic Camadini ou...
Non. Je crois que c'est dans le Topic Claude Leroy, il me semble.
Ouais, c'est dans
le. Et l'article, il faut regarder dans les archives.
Ouais, je l'ai chez moi, l'article.
Et c'est vrai, bon, bah, Camadini. À tremper là-dedans. Alors voilà, je peux pas dire.
Tremper, moi je trouve que le mot est dur.
Le mot il peut-être dur, mais. Voilà, c'est quand même, ça a quand même été une entreprise de destruction de notre club. Et. Voilà, il s'est un peu sucré au passage. Ça me dérange un peu. Hein. Bon, après, voilà, à quel niveau je.
Mais je pense pas que c'est la plus grosse star qu'on puisse reprocher à Camille.
Oui, parce que.
Alors c'est peut-être pas la plus grosse star, mais. T'en es une.
Voilà. Youliou.
Parce que quand tu dis tremper, ça voudrait dire qu'il était plus ou moins, j'allais dire, dans la tête pensante de ce système. Quoi.
Non, je dis pas qu'il était dans la tête
il
pensante.
Il a peut-être profité d'un système.
Il a profité du système.
Place.
Voilà.
Et je pense que peut-être que si j'avais été à sa place, j'aurais fait pareil. On m'a dit bon, voilà, comme expliquait Guig, ta prime tu l'auras pas, tu l'auras. On attend une rentrée d'argent, je sais pas quoi. Je dirais à la limite, Camadini, est-ce qu'il sait déjà d'où venait cet argent, quoi? Parce que quand tu dis trempé, ça voudrait dire qu'il était conscient et au courant de.
Alors là, il y a Philippe hein, qui est en train de rechercher Camadini.
Un travail d'investigation. Quoi.
Alors voilà, on est en train de. Ouais, en direct.
En direct, ouais, mais bon, je sais pas si avec le micro. Enfin, parmi ces transferts suivis de près par la justice, l'un concerne un joueur de l'effectif actuel du Racing. Donc ça, c'était à l'époque Papin. Pascal Cademinini, arrivé gratuitement en 1998 de Sion. 5 millions de francs sont cependant dépensés frauduleusement par le Racing à destination de l'agent du joueur Gilles Berceau, donc Gilles Berceau, hein, qui avait été largement trempé dans plein d'histoires, hein, le roi, qui obtient 3 millions. Et de Pascal Camaldini lui-même à la hauteur de 2 millions de francs, même si ce dernier conteste la version pourtant étayée des enquêteurs.
Voilà. Alors, moi, je pour dire, Camaldini, en tant que joueur libre, il reçoit une... Enfin, je le vois comme ça, on va pas défendre, mais le gars, on lui dit, tu vas toucher 2 millions de francs sur ton transfert, mais t'inquiète pas, tu les touches pas tout de suite. Un joueur qui arrive libre, il reçoit une prime à la signature. Si après le roi et l'agent magouille pour faire sortir 7 millions en donner que 2 à Camaldini, je suis pas sûr que c'est lui qui trempe dans la magouille. Après, il a été complice d'un truc, bon d'accord. Ouais,
voilà.
Mais bon.
Bah, ok, bon, au-delà de cette histoire-là, Camaldini, donc là, qui est promu coordinateur sportif à titre bénévole, quel intérêt?
Moi, j'ai... C'est le poste de Tirat.
Bah, j'ai l'impression. Non, mais...
Déjà, qu'est-ce que ça fait un coordinateur sportif à titre bénévole?
Voilà, j'aimerais savoir quel est l'intérêt pour Racing actuellement, qui est dans la merde, de nommer Pascal Camaldini coordinateur sportif à titre bénévole. Quel est l'intérêt?
C'est une très bonne question.
Voilà,
c'est,
bah, c'est... je la pose.
Merci de l'avoir posé. Ça permet de surveiller les licences des adversaires et de gagner une match sur tapis vert.
Ouais.
Quand on n'arrive pas à les gagner dans le jeu, ça peut toujours servir.
Voilà, ouais.
J'ai mis un bénévole corse.
Un bénévole corse, ouais. Voilà, effectivement.
Ça permet de mieux huiler les euros.
Non, mais...
Moi, je vois ça comme, de nouveau, une fois, l'homme du président. Quoi. C'est ça. Quoi. Ça fait vraiment l'homme du président.
Ah, c'est l'œil du président. C'est lui qui...
Cette fois-ci, on se le cache même plus. Quoi. C'est-à-dire, voilà.
C'est lui qui va rendre compte au président de ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qui pourrait être amélioré au sein du sportif, au sein de...
Mais est-ce qu'il a les compétences pour, quoi?
Pourquoi pas?
C'est quand même un stagiaire, à la base, hein, puisque je crois qu'il est en stage au Racing. Donc Le mec, il est, enfin, il est coordinateur sportif,
mais enfin, poste en fait,
important, c'est un stagiaire là-bas.
Mais c'est ridicule alors.
Après, ouais, ça doit faire 2-3 saisons qu'il gravite quand même dans.
Pour graviter, il gravite, ouais.
Il gravite, hein.
Ouais, il gravite, ouais, mais est-ce que. Enfin, moi, je trouve ça ridicule, personnellement, de penser. Et ça en revient. Qui le nomme? Philippe Ginesté? Alors, on peut en venir à Ginesté.
Alors, il y a un truc.
Là aussi, c'est encore une décision ridicule et quelque chose de grotesque.
Il y a quand même quelque chose qui me choque aussi, hein, que personne n'a relevé ici. C'est. A priori, ça fait 10 jours qu'il fait ça, déjà. Qu'il est coordinateur sportif.
Non, mais a priori, ça fait 6 mois, il y avait un article des DNA sur le Stoub, qui fait une licence, je crois, à Limoges, là, comme du sport, et il fait son stage au Racing. Et...
C'est vrai qu'il y a une faculté de sport.
Ouais, ouais, il fait son stage au Racing, donc il gravite autour du club depuis 6 mois, à regarder, à noter.
Donc de facto, il est déjà.
Ah oui, donc là, Ginesté, là, ce qu'on peut lui reprocher, c'est d'être assez bête pour le nommer en pleine tempête. Pour le nommer à un truc qu'il faisait déjà avant, il aurait pu rester à gravité, rapporter la même chose, là il le nomme.
C'est pas ce qui arrange son image. Hein.
Voilà, exactement.
Ouais, mais c'est peut-être justement une mauvaise opération de com. Genre, on fait des trucs, club va mal, on fait des trucs. Mais c'est pas les trucs qu'il faut faire. Non. Et c'est un peu un des grands reproches que. Même moi qui, bon, on va dire. Pour certains, j'ai une position qui est plutôt, on va dire.
Pro-Keller, oui.
Pro-Ginester.
Pro-Prozy.
Ouais, ouais, ouais. Pro-Veller, quoi.
Pro-Veller, pro-Ginesté ou pro-Prozy, on n'y comprend plus rien.
Pro-Richter,
pro-Racing, quoi.
Ouais. Pro-Racing, ouais, on est tous pro-Racing. Ouais. Ouais.
Ah, pas tous, hein.
Pas tous.
Ah bon, je dirais qu'il y en a qui sont pas pro-Racing, comme pour reprendre.
Qui ça?
Les 11 joueurs.
Hein?
Ah oui, bon. Non, mais.
Des transversales et des rondes. Non, c'est.
Tu sors.
Un des reproches qui est souvent fait à Ginesté, c'est de dire que voilà, c'est quelqu'un qui n'a pas, dans l'organigramme du club, dans le club, un relais, un œil. Sportif, quelqu'un qui connaît vraiment le foot et qui pourrait justement le conseiller en matière sportive. C'est un des reproches qu'il y a fait. Maintenant, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai que dans l'entourage du président, il n'y ait pas un pendant sportif, donc quelqu'un qui puisse connaître un peu les aspects techniques, les aspects recrutement et qui serait là pour le conseiller de manière pertinente. Et là, j'ai l'impression que c'est un peu ça. Il se dit, bon, voilà, Camaldini, c'est un jour, bon, il valait ce qu'il valait. Il a besoin, j'ai l'impression qu'il manque vraiment un pendant sportif et que les entraîneurs qui étaient au Racing n'ont jamais été vraiment ce pendant sportif, parce que un des grands projets foireux du Ginesté était de créer une sorte de manager à l'anglaise
qu'il a pas osé faire avec Furlan.
Si, il l'a fait avec Furlan et la première année,
oui.
Et on a vu ce que ça a donné.
Ça aurait pu marcher si avec quelqu'un d'autre.
S'il y avait eu Wenger, quoi. Voilà. S'il y avait eu un manager à l'anglaise, quoi. Voilà, quoi.
Ouais, enfin bon, oui. Voilà. Ouais, d'accord.
Et donc, ouais.
Avec une autre personne.
Et donc, c'est ça, c'est-à-dire, il y a un président. Il y a un président club, c'est Ginesté, mais il n'y a pas, j'allais dire, vraiment de leader au niveau sportif dans les dirigeants. J'ai l'impression, Jeannin, on ne sait pas vraiment s'il est là, s'il n'est pas là. Quelle est sa marge de manœuvre?
Lui, c'est l'entraîneur.
Ouais, mais quelle est sa marge de manœuvre aussi? Parce que bon, je veux dire, quand tu vois tous les deux jours, tous les trois jours, des noms qui circulent, quelle est vraiment la marge de manœuvre de Jeannin en termes de, je sais pas, en termes sportifs, tout simplement, en termes... Est-ce qu'il y a des, est-ce que Kamadini est là justement pour lui donner des consignes, pour le surveiller, voilà, tout ça c'est...
Bah il y a un manque de clarté là aussi, je pense. Hein.
C'est... Moi ce qui me gêne aussi, c'est que, bon, ça a beau être un stagiaire, Kamadini c'est quand même un... C'est quand même un homme qui est là depuis...
Ah, je croyais qu'il a trempé.
Non,
il a trempé son biscuit.
Oui, il a peut-être trempé son biscuit, mais... ce que j'espère pour lui, mais... ce que je veux dire, c'est pas une personne neuve. Moi j'aurais bien aimé du sang neuf un peu dans tout cet organigramme.
Et même du sang tout court?
Du sang tout court, oui, pour certains, mais... Là on voit, on a des révolutions de palais, on a des revirements, des et en fait c'est toujours les mêmes personnes.
Bon, en tout cas...
Alors Ginesté qui revient, Herzog, Kamadini qui est là depuis là, voilà, qui est nommé. J'aurais bien aimé...
Un grand ménage.
Ouais, mais j'en arrive à penser ça, hein. J'en arrive à, je veux dire, voilà, tout repartir de zéro, avec un regard neuf, des hommes neufs.
Ça, on pourrait le faire en 2012,
après la fin du monde.
Après la fin du monde,
d'accord.
S'il y a quelques survivants, on pourrait toujours faire
T'as vu les extraits, là, du film de Emmerich,
ouais, ouais, c'est un peu RCS Nantes,
RCS Clermont, hein.
Le grand naufrage, quoi.
Ouais,
et maintenant, si on en vient justement alors, à celui qui... Alors, la presse régionale, je sais pas, moi, j'ai lu quelques articles...
La PQR.
Qui le... Ouais, il...
si, c'est ça. Non, mais ça existe, hein.
Très bon.
De quoi?
La PQR.
Presse quotidienne régionale. La PQR, ouais. Donc la PQR alsacienne...
Oui, j'ai mis un an à comprendre ce que ça voulait dire sur certains forums, la PQR. Hein.
Le PQR, ouais.
Donc la PQR qui a l'air quand même d'être très offensive vis-à-vis de Philippe Ginesté, qu'on peut mettre en débat, parce que finalement, ce Ginesté, là, il...
Les charognards sont sortis.
Ce Ginesté, ce cher Philippe Ginesté... Il commence sérieusement à en agacer plus d'un, voire plus. Mmh. Et c'est vrai que moi, je suis le premier à dire que ça suffit, quoi. Ça suffit, les échecs, ça suffit. Ça fait quand même un certain temps qu'il est là, un certain nombre d'échecs, peu de succès, peu de choses convaincantes, pas de succès. À quoi sert ce bonhomme? À quoi
la remontée immédiate?
Quel a été le but de Philippe Ginesté en Racing?
Bah, le but, c'est de faire gagner un Racing.
Oui, enfin, j'ai surtout l'impression que ce mec était là pour placer ses propres intérêts.
Plus que lui qui paye, il aurait pu les faire travailler dans l'entreprise, ils auraient gagné plus d'argent.
Ah oui. S'il avait voulu gagner de l'argent, il aurait continué.
Mais il y a un problème d'ego, là, il y a aussi un problème d'ego. J'ai l'impression.
C'est toujours un ego quand tu t'investis. Il y a un vrai problème d'ego.
L'ego, il y a tout le monde qui en a. C'est sûr que
quand
on s'investit comme ça dans un club, qu'on a les résultats, ça fait mal à l'ego.
Et puis quand on soutient Gilbert Grèce, on peut difficilement reprocher des problèmes d'ego à Ginesté.
Ça, c'est vrai.
Ah, moi je pense que...
C'est un peu l'hôpital qui se fout de la charité.
Bah, je pense que Gilbert Grèce au Racing...
C'est même la maison
de retraite. Tu prends Gilbert Grèce au Racing, tu prends la colonne succès, et tu prends la colonne succès Ginesté au Racing, c'est pas la même chose. Donc moi, il y a un qui peut se permettre d'avoir plus d'ego que l'autre concernant le Racing.
Je suis tout à fait d'accord avec Paolo. Moi, ce que je reproche à Ginesté, surtout, c'est un gros manque de résultats. Voilà, après, j'en ai un qui a un ego, qui place ses copains, tout le monde s'en tape. Si le problème, c'est qu'il est mauvais.
Si ça marche, tout le monde s'en fout.
Bah, ça marche pas, là. Bah,
voilà.
Là, c'est clair, ça ne marche pas. Il faut qu'il tire enfin les conséquences de ses échecs, je sais pas, moi.
Mais enfin, moi,
ça me fait plaisir, hein, ça me ferait plaisir qu'il y ait un repreneur qui dit, voilà, qui
bah, mais un... voilà, bah.
Là, je. Monsieur, bon, moi, j'attends que ça,
hein. Oui, Yulio,
monsieur. Professeur.
Allez-y.
Le problème, c'est que, comme je l'avais déjà dit à l'époque du limogeage de Grèce, c'est même pas un problème de c'est un problème de personne, mais c'est pas un problème d'une personne. Je veux dire, on a viré Grèce, ça a rien arrangé. Je veux dire, si, bon, c'est peut-être un peu moins,
un peu moins
foutoir, un peu, voilà, c'est plus 6-1, c'est 3-0.
Voilà,
bon, mais je veux dire,
bien mieux.
Il y a un problème, j'ai l'impression que c'est le problème est de fond, quoi. Donc, alors, c'est-à-dire, voilà, on peut toujours virer Ginesté, mais le problème, c'est comme tu dis, si on fait pas, il y aura peut-être toujours des gens qui, c'est toujours cette espèce de théorie des gens qui gravitent autour du club et qui foutent la merde, on n'en sait pas plus. C'est opaque, ça se trouve, c'est juste un fantasme de Stubiste.
Mais virer Ginesté pour que ça soit Herzog, par exemple.
Bon, voilà, comme tu dis, si c'est pour virer Ginesté pour mettre quelqu'un qui est plus ou moins un homme de paille de Ginesté. Mais le grand problème, c'est surtout de se poser la question, je veux dire, où on est le Racing en ce moment, c'est-à-dire quel est le projet sportif à court terme, à long terme? Est-ce qu'on a les moyens sportifs? Est-ce qu'on a les gens compétents pour le porter? Je veux dire, voilà, c'est vraiment des questions qu'on n'aborde pas, mais pourtant, c'est peut-être le fond du problème. C'est-à-dire, voilà, j'ai l'impression que le Racing, en ce moment, c'est surtout du bricolage, pareil à l'urgence, des règlements de compte, mais j'ai l'impression qu'il n'y a plus de vision, que ce soit à court ou à moyen terme. Bon, à court terme, on sait que c'est de se maintenir.
C'est comme ça que depuis 79, hein.
Bah, faudrait peut-être qu'il y ait quelqu'un qui vienne. Et qui
Gilbert Gresse. Gilbert Gresse.
Il est venu deux fois.
Il y en a qui ont essayé. Gilbert Gresse, la. Le 4, ah, après non. Gilbert Gresse 3, Gilbert Gresse 4, okay. Oui.
Voilà. Sinon, le grand drame du Racing, c'est qu'à chaque fois qu'il y a quelqu'un, qu'il y a eu quelqu'un un peu d'extérieur qui est venu, ça a été pire. Les deux fois, ça a été Echter, ça a été Proisy.
Et ça a été une troisième fois une tentative à Fleu.
Bon, tentative. Soyons sérieux.
Là, il fallait laisser bosser Gilbert Gresse, putain.
Arrête, arrête.
On avait un coach, mais on avait un coach, merde.
Ouais,
je crois qu'on n'est même plus un problème de coach au Racing.
C'est plus un problème de coach.
On avait un leader, on avait un leader.
C'est un problème global qui est.
Et tout.
D'ailleurs, Gilbert Gresse a rencontré Fidel Castro.
Ouais, non, mais là, c'est du vice, c'est connerie.
Voilà, Conan qui ne parle pas dans le micro, qui est indiscipliné, qui se fait réprimander par Philippe, à qui je laisse la parole sur tout ça parce que.
Donc Conan fait une connerie, c'est moi qui. C'est
voilà,
moi
bah, non mais. Voilà.
Non, bah j'y restais. Moi j'étais assez confiant et bon, j'étais assez confiant aussi en Furlan, donc bon, je suis pas forcément. Mais c'est clair que Ginesté, bon, on est arrivé à un point, il accumule trop d'échecs pour qu'on puisse encore continuer à espérer quoi que ce soit. Donc moi, je suis aussi, évidemment, je dirais, pour son départ. Maintenant, la question, c'est... Enfin, d'ailleurs, je pense que la plupart des joueurs sont plutôt d'accord avec ça. Vu dire, y a
pas beaucoup... que même Ginesté est pour son départ.
Oui, c'est ça, voilà. le problème est, il n'est pas là, en fait. Le problème, c'est que pour l'instant, il n'y a personne pour reprendre le club. Mmh. Et puis même s'il y avait quelqu'un, il faut que ce soit aussi quelqu'un de pas trop mauvais. Enfin, je veux dire, qui soit quand même capable de reprendre la suite, parce qu'il y a quand même pas mal de boulot aussi à faire après. Donc, c'est ça qui est un peu...
Le problème, c'est que s'il part, on sait ce qu'on perd, on sait pas
ouais,
ce qu'on
gagne. Mais c'est ça qui est un peu désespérant, c'est qu'on sait qu'on est dans une situation catastrophique, mais on n'est pas sûr que, quoi qu'il arrive demain, ce soit beaucoup mieux. Donc, je sais pas. Je sais pas s'il y a un homme miracle, un homme...
Non, un homme miracle, il n'y en a pas, quoi.
Chez le père Cresse.
Ouais, bien sûr.
Mais le problème, surtout, c'est que c'est un peu cette... Ce que je reproche juste à Ginesté, c'est à la limite, je veux dire, bon, il est critiqué, à juste titre. Mais il réagit pas en faisant le dos rond et en se remettant en question, en disant, voilà, j'avoue que j'ai des échecs, j'avoue que je devrais peut-être mieux m'entourer, blablabla. Il réagit avec des formules, voilà. Et le problème, c'est que maintenant, bon, alors, la presse relaye ça, c'est qu'il y a plein de critiques qui émanent, notamment de Guindorf, mais je veux dire, c'est plein de gens qui critiquent Ginesté, à juste titre, mais je veux dire, est-ce que eux sont prêts? Ils veulent reprendre le club aussi, parce que c'est facile de...
Ceci dit, pour les Leroy, les Proisy, enfin tous les gens qui ont réagi ces derniers temps, forcément pour eux qui sont également dans une situation d'échec par rapport au Racing, leur meilleure défense, c'est de pointer du doigt le classement du Racing. Quoi. Donc pour un Leroy...
bon, c'est du, tout monde, c'est du pain cette... béni.
Pardon ?
C'est du pain béni.
Oui, c'est ça.
Moi, je pensais plutôt à Guindorf, quoi.
Ouais, enfin.
Ah, mais Guindorf, il règle ses comptes avec
Ginesté. Ouais, je pense qu'il a des comptes personnels.
C'est voilà, c'est, là, on a vu pas mal de réactions d'anciennes personnalités du Racing, d'anciens dirigeants. Mm-hmm. Des réactions assez acerbes vis-à-vis de Ginesté. Bon, bah, faut voir que c'est des gens à la base qui sont aigris. Parce que eux oui, aussi, bah, comme dit Philippe, hein, sont
qui
des
ont
gens
échoué au Racing,
qui ont échoué au Racing également. Qui ont peut-être pris le Racing dans une situation bien plus confortable que quand Ginesté l'a pris aussi. Ils sont, par exemple, quelqu'un comme Proisy est parti de beaucoup plus haut. Je veux dire, quand Proisy a pris le Racing, on jouait à Liverpool en Coupe d'Europe. Quand Ginesté a pris le Racing, on était.
On jouait à Rome en Coupe d'Europe.
Non, c'est après, non, après.
Ouais, mais c'était la même saison, quoi.
Non, c'était après, on était à 10 points du premier relégable, du premier non relégable.
On joue encore l'Europe.
Et les caisses étaient vides. Alors que Proisy avait de l'argent, hein, quand même, injecté pas mal d'argent. Donc voilà, faut.
Et d'ailleurs, là, alors les deux seuls qui ont été dignes dans cette fameuse ce torchon là de France Football, là, où j'avais écrit au journaliste qui m'a jamais répondu.
L'enfoiré.
Ouais, enfoiré. Alors j'ai écrit un beau mail pour insulter le roi. Et donc les deux seuls qui ont été dignes, surtout ça a été Jacky Duguay-Pérou qui a dit qu'il ne se prononçait pas parce qu'il était dégoûté par le Racing et le foot.
Ouais.
Et Roland Véler, qui le seul gars qui a réussi au Racing les 30 dernières années, c'est le seul gars qui enfonce pas Ginesté. C'est peut-être un signe, quoi.
Tout à fait.
Ah, c'est un signe que pour ceux qui ont échoué, c'est comme disait Conan, c'est du pain béni.
Ouais, c'est du pain béni. Et en fait, ça résume pas mal tout le drame du Racing, hein, c'est-à-dire que voilà, tout le monde s'engueule, tout le monde se tire se met des bâtons dans les roues, tout le monde se tire dans les pattes, et finalement, ça fait pas avancer le club. Il y a pas.
Alors, y a-t-il une solution quand même? Parce que là, on tourne. Est-ce que vous êtes tous pessimistes? Je vois des têtes s'agiter pour dire non, mais.
Franchement, quelqu'un
a une solution là, autour de la table?
Si j'avais une solution, j'aurais déjà envoyé par mail ou par courrier. Mmh.
Ouais, donc t'en as pas quoi.
Voilà.
Ok, Yu-Yu n'a pas de solution. Conan, as-tu une solution? Allez, Conan, sors-nous une solution, là, fais-nous rêver.
Bah, qu'est-ce que je te fasse rêver,
hein, moi, je sais pas.
C'est
plus Gilbert Grèce pour rêver, faut bien que.
Actuellement, à court terme, là, c'est les joueurs qui ont la solution dans les pieds. Voilà, faut compter sur eux.
Ouais, bon.
C'est dire à quel point on est dans la merde.
Ok, ouais. C'est ce que j'allais dire. Hein.
Voilà, non, mais c'est triste, mais c'est ça. Mais... La solution, ça serait que vraiment tout le monde tire dans le même sens. Que tout le monde prenne conscience que l'intérêt c'est le Racing.
Mais tout le monde tire dans le même sens, enfin sur Ginesté en tout cas. Ouais.
D'abord sur Grèce,
on tire dans le même sens, une fois qu'ils vont abattre Ginesté, voilà, ils vont se tirailler entre eux.
C'est ça.
Allez Gigas, une solution là, je te sens.
Non, moi j'allais dire, moi j'ai pas une solution. Le seul truc qu'on peut espérer, c'est que le Racing ne coule pas complètement et se maintienne quand même en deuxième division. Et que ça permette à Ginesté de vendre le club sur un compromis à quelqu'un de. Et qu'on recommence en espérant qu'on tombe une fois sur la bonne formule. Ça peut arriver, mais pour moi, il n'y a pas de solution miracle. De toute façon, il faut une réforme en profondeur du club, à mon avis. Ouais. Et Ginesté, au début, on a cru qu'il allait peut-être essayer de le faire. Finalement, il a rien fait de spécial. En positif, hein, genre sans parler de son négatif. Donc là, peut-être que quelqu'un va venir et va réussir à remettre le club debout un peu, à en faire enfin un club professionnel des années 2000.
Ouais,
donc la solution miracle, c'est
en 2010.
Il y a une formule qui a été dite, que j'ai lu plusieurs fois sur le Stoop, c'est que le Racing a raté le virage du foot business en 97, justement, avec l'arrivée de IMG Marc Cormac. Ça aurait pu marcher.
Ça aurait pu marcher, mais on en serait à avoir quelque chose qui nous plairait quand même pas, parce que ça correspondrait plus aux valeurs du Racing, quoi. Donc l'un dans l'autre, tu dis.
Ouais, ça aurait pu marcher en gardant les valeurs du Racing.
Ouais, mais enfin, avec IMG McCormack, on a bien vu ce que ça a donné. Donc c'est pas pour rien non plus que ça a échoué, quoi.
Paolo, regarde Bordeaux. Hein. Alors, les Bordelais ont pris le virage du foot business un petit peu dans le mur. Enfin, à l'époque où ils étaient aussi en combat contre la direction, les résultats étaient. Pas aussi pitoyable que les nôtres, mais vraiment pas terrible. Et à un moment, M6 a décidé de maintenir sa confiance à Trio. Trio a mis de l'eau dans son vin, ils ont commencé à mettre de l'argent, et ça a commencé à rouler.
Philippe.
Ouais, non, mais pour essayer de donner un motif d'espoir, moi j'ai eu l'occasion...
Merci Philippe.
J'ai eu l'occasion d'assister à un ensilement il y a 5 ans, au stade Marcel Picot, qui était en travaux. C'était l'hiver, il faisait froid, il faisait moins 10, il y avait du vent, c'était ignoble. Et Nancy était avant-dernier, je crois, et a perdu 2-0 contre Le Mans. Et en sortant du stade, on se disait que Nancy n'arrivera jamais à remonter en Ligue 1, ça sera vraiment pour plusieurs années un club en grosse difficulté, qui va même peut-être descendre en National. Et finalement, 2 ans et demi plus tard, Nancy a gagné la Coupe de la Ligue contre Nice. Donc, heureusement, on est quand même en train de parler du football. Et le foot, c'est quand même un sport où il peut se passer des trucs assez rapidement, et particulièrement au Racing, quoi. Donc, il y a quand même pas mal d'exemples dans l'histoire qui montrent que des clubs qui étaient dans une situation absolument ignoble ont réussi à revenir à un bon niveau. Et pour parler du Racing, il faut quand même se rappeler qu'il y a 15 ans ou 16 ans, on était 17e ou 18e, 16e ou 17e de D2, et qu'on avait terminé la saison 3e. À l'époque, c'était les barrages, donc on n'était pas remonté.
Troisième, ce serait
bien. Je pense que cette année, ça va être un peu plus chaud, mais en tout cas, c'est pour dire que, voilà, il y a pas non plus de raison de désespérer totalement, quoi.
Et à l'époque, on était encore plus bas que maintenant, parce que c'était l'époque, il y avait deux groupes de 18.
Oui, il y avait la
D2 était deux groupes de 18.
Ceci dit, on avait des joueurs quand même d'un niveau supérieur, qu'on avait des Monzuk, on avait des Kobos, on avait non, pour lesquels, il n'est pas encore là.
Ouais,
là,
bah, donc,
peut-être
Azek, ouais, à l'époque. Mais ce que je veux dire, Monzuk, d'accord. Kobos, il n'était pas encore, c'était un jeune joueur.
Je veux dire, au niveau de l'effectif,
aujourd'hui, par exemple.
Aujourd'hui, je vois pas d'équivalent à Monzuk ou d'équivalent à Kobos dans l'effectif du.
Non, mais ce que je veux dire aussi, c'est qu'à l'époque, c'était en 90-91. Quand à mi-saison, je crois que c'est au bout de 10 journées, on est 16e. Donc on est 52e hein, sur la hiérarchie française. Là, nous sommes 40e.
Par contre, ne dis pas grâce à qui on est monté en Ligue 1 après, parce que sinon, il y a quelqu'un en face de toi qui va...
Chiles !
Non, mais c'était... Et d'ailleurs, c'était Splash, toi, l'entraîneur.
Ouais, non, mais la saison, enfin, l'année où on est remonté, quoi, la saison.
C'est Splash, toi, l'entraîneur. C'est... Non, mais cette année, 90-80.
Ah, bah, la solution, ouais, ce serait de rappeler Gilbert Gress pour.
Bien sûr.
Voilà, pour effectivement ce renouveau-là, quoi.
Ouais, la marmotte.
Bon, en tout cas.
Sinon, voilà, à partir, on évoque Splash, tu parlais des gens qui ont été dit, mais je trouve que Splash a été dit.
Enfin, ce cas, c'est qu'il a été. Il a rien dit, comme quand il était président. Enfin, moi, il m'a déçu.
Non, il a dit, il ne faut rien dire.
Si je peux faire un peu une... Peut-être parce que je m'attendais... Bon, peut-être parce que, voilà, j'étais dans l'illusion de, voilà, l'homme de 79, quelqu'un qui était, justement, sobre. Donc, pour moi, la sobriété au Racing, c'est parfois gage de... Enfin, bon, il y a Guillaume Lacour aussi, qui n'est pas un exemple non plus, mais... Je me disais, ouais, bon, c'est quelqu'un qui ne fait pas des vagues, qui ne fait pas des déclarations toutes les deux semaines... Voilà,
le bon sens alsacien.
Voilà, bon gestionnaire qui était quand même pour moi, il était DRH donc alors une grande entreprise. Donc je me disais bon c'est quelqu'un qui a des compétences. Et déjà je trouvais qu'au niveau rien qu'au niveau de la communication, il était très mauvais parce que je veux dire quand on est président d'un club, on ne dit pas il y a deux heures j'étais pas au courant que je serais président. Je veux dire surtout quand on est entendu, je veux dire il y avait peut-être des joueurs qui sont sur le point de signer, ils ont dit mais c'est quoi ce club où le président il...
Malheureusement je pense qu'il était sincère et
des fois, il aurait peut-être dû rester silencieux.
Ouais, mais la grosse star de Spech, c'est qu'il avait pas envie d'être président.
Voilà.
Et
qu'il a pas endossé le costume, enfin il y a pas un moment où il s'est dit tiens.
C'est aussi le gros problème de Ginesté aujourd'hui hein. Ginesté aujourd'hui n'a plus envie d'être président du Racing.
Et qui a envie d'être président du Racing ?
Moi, mais j'ai pas 4 millions.
Jamal.
Gilbert Gress,
je sais pas. Carsten Juncker. Hein.
Jackie Kintz. Enfin bref.
Jackie Kintz, voilà. C'est un peu le plus marrant.
Par contre, moi, ce que je voulais dire, c'est que bon, c'est vrai qu'on a un début de saison qui est difficile. Mais moi, je me rappelle d'une saison où Neuchâtel Xamax avait perdu.
Ah bah voilà.
Ouais, c'est ce que
c'était quoi,
dans le bouquin de Gilbert Gress
des Alpes et qui après deux mois après faisait un quart de finale contre Hambourg. Voilà. C'est ce que
malheureusement on joue pas la Coupe des Alpes, c'est ça.
Ouais.
En tout cas, je remercie moi Philippe parce qu'il a quand même redonné le sourire là, avec ses notes d'optimisme. Donc c'est bien, non,
ouais,
c'est
vrai ça que ça peut aller vite. Hein.
Et puis je sais pas si vous avez vu là l'histoire du stade de la Méno qui risque finalement d'être retenu pour l'Euro 2016.
C'est une bonne nouvelle.
Donc ça peut être aussi une dynamique qui va faire en sorte que petit à petit au cours des années 2010, hein, parce que là les années 2000 c'est foutu, mais au cours des années 2010, petit à petit le Racing qui va.
Au
fur et à mesure que l'Euro va arriver, le Racing va monter, peut-être que le Racing sera champion l'année de l'Euro. Quoi.
De toute façon, Strasbourg un potentiel incroyable au niveau football. Un potentiel incroyable, et c'est peut-être aussi pour ça qu'il y a tant de gens qui se tirent dans les pattes pour ce club. Hein.
Il y a de l'enjeu, je pense. Il y a vraiment un enjeu aussi bien sportif que symbolique et que financier. Sinon, il n'y aura pas des gens qui seraient là, vite. Comme tu dis, à graviter, à se tirer dans les pattes,
à faire des émissions radio, des
voilà, etc.
Mais après, moi, je
il y a vraiment un potentiel. Ça, je suis complètement.
Pour rebondir aussi sur quelque chose. C'est vrai qu'on est surnommé l'OM de l'Est. Enfin, plutôt Marseille est surnommé
le
Strasbourg du Sud. Mais moi, je me rappelle de quand il y avait eu le départ de Pape Diouf à l'OM.
Ouais.
Et comme quoi, des fois, pourtant, la situation sportive ne suffit pas, j'allais dire. Ça peut être, comme je le disais, comme Conan et Philippe l'ont dit, ça peut apaiser pas mal de tensions d'avoir des résultats. Ça peut quand même éloigner des fois des charognards. Ça peut attirer des gens qui se disent « Ah tiens, finalement, ça marche ». Mais des fois aussi, ça ne suffit pas, parce qu'on a bien vu à l'OM qui se sont déchirés pour des histoires d'ego, un peu comme ce qu'on peut retrouver chez nous.
Et ça continue.
Et ça continue, alors que pourtant, je veux dire, sportivement, l'équipe tournait bien, il y avait des résultats.
L'histoire de la gestion africaine de l'OM.
Présidence africaine.
Ouais.
Donc, mais l'OM, c'est quand même, alors là, le niveau, enfin, juste pour faire l'anecdote, le club qui va être champion de France et qui se déchire pour... Parce que l'entraîneur n'a pas eu la prolongation assez tôt et parce que le président a un petit peu...
Et l'autre ne veut pas aller aux réunions.
Ouais, l'actionnaire principal, enfin, vraiment des histoires à la con. C'est et les résultats, ils perdent le titre de champion.
Ouais, c'est aussi parce que Bordeaux a fait une fin de championnat incroyable. 11 victoires d'affilée, je crois.
C'est un peu comme nous, mais à l'envers.
Voilà. ça joue aussi beaucoup. Hein.
C'est vrai que Bordeaux, pour en venir à Bordeaux, si Bordeaux a aussi les résultats qu'ils ont, c'est bon, il y a une stabilité qui est là et il y a aussi... une espèce de... Ils sont quand même beaucoup plus clos qu'à Marseille, où le rayonnement de Marseille, c'est toute la Provence. Strasbourg, c'est toute l'Alsace. À Bordeaux, finalement, autour de Bordeaux, c'est là que ça se passe. Quoi. C'est quelque chose de très localisé. Et ça limite quand même pas mal de problèmes.
Ce qui est effrayant, c'est qu'en 97, quand Poisy prend le club, sportivement, même budgétairement, on est à peu près au niveau de Bordeaux et de Lyon. En 97.
Voilà, enfin.
Donc, voilà.
On va pas se faire du mal quand même.
Si.
À nouveau.
Ben, moi, j'ai encore une question hein, pour finir, enfin, un tour de table. Petite, vous, vous imaginez en national?
Ouais.
Ouais.
ouais. Genre, vous tapez des matchs contre Bayonne, contre.
Ça changera quoi,
bon, moi, je vais parler en tant que bon, supporter de Strasbourg qui a grandi à Mulhouse.
Mm-hmm.
Je veux dire, moi, c'est quelque chose que j'aurais vécu. Un club qui a un passé, bon, nous c'était un passé de Ligue de D2,
ouais.
Pas un passé de Ligue 1.
Oh, il y avait un petit
non, Mulhouse n'a jamais été un club
87,
de...
Mulhouse gagnait 3-4 à la Mélo.
Ouais, mais Mulhouse n'a jamais été un club de D1 comme le Racing.
Ouais, il n'y a pas une histoire de D1.
Mais
c'est
je veux dire, voilà.
Ah, ouais, parfaitement d'accord, ouais. c'est un fait. Entièrement.
C'est un fait. Et je veux dire, ouais, c'est vrai que ça peut aller vite, ça peut aller très vite. Et justement, à l'époque, le sportif n'avait pas réussi à sauver le Mulhouse, quoi, parce que il y avait des histoires de dépôt de bilan. Et bien que le club ait obtenu le maintien national, et je peux vous dire que c'est la mort d'un club. Hein. Je veux dire, quand on passe d'affiches de ouais. pour jouer la montée en Ligue 1, ou même il y a eu des affiches de D1 à des matchs contre des clubs. Non, mais... moi, je me rappelle de Noisy-le-Sec, quoi, ça faisait peur. Quoi,
ouais, c'est pas le premier match de Dan Passard, ça, Noisy-le-Sec?
Ah, ça, je sais pas.
Qu'il avait déclaré. C'est le premier match qu'il a vu, un Noisy-le-Sec contre.
Un Mulhouse contre. Je sais
plus non, à Noisy-le-Sec, il me semble. Il faudrait regarder dans les archives.
Ah oui, c'est pas les finales ou un truc comme ça.
Ouais, peut-être.
Mais en tout cas, ce qu'il faut voir aussi,
non,
c'est.
Ça fait... Regardons.
Ouais,
le National, c'est génial, par exemple, si c'est un club comme Chiltikem qui vient du CFA.
Oui, ça, oui, bien sûr.
Mais est-ce qu'il faut voir. T'imagines, le Dep, par exemple, le Derby, ça sera à Colmar.
Bah ouais.
Ou mieux. Il y aura un Colmar-Strasbourg. Et ça sera le derby.
Non, mais ce qu'il faut.
Moi, d'imaginer.
Mais regardez aussi. Regardez ce qui se passe dans les autres pays. Hein, regardez les clubs historiques qui tombent chaque année. Hein. En Allemagne, il y a deux ans, c'est Karlslautern qui a failli tomber en national.
Karlsruhe
qui est tombé en national à une époque. Il y a Leeds en Angleterre qui est dans la panade. Il y a des clubs.
Nottingham Forest.
Pour des problèmes autres, il y a huit clubs italiens qui étaient en série B qui ont été rétrogradés.
Il y a Fiorentina qui est en série C.
Il y a Fiorentina qui est monté
3-2. Il y a Fiorentina. Il y a le club, il y a Toulouse il y a quelques années, Toulouse.
Alors il y a quand même une différence en France, c'est que je crois au bout de deux saisons de national, on perd le statut pro. Je crois il y a une histoire comme ça de règlement. Philippe, toi tu dis non?
Non.
Je crois il y a une histoire, hein, je veux dire, je crois au bout de deux saisons.
Moi je pensais pas un jour devoir me préoccuper de ce genre de problème.
Il faudrait un bénévole corse. Dans les
non mais là voilà, c'est des questions.
De bénévole corse. On va demander à Pascal Camadini. Si,
même si, comme tu le soulignes hein, très justement, ça peut aller très vite. Hein, tu évoquais le Nancy Le Mans. Voilà, ça peut aussi tomber dans l'autre sens. Hein. Regarde Cannes, ça fait depuis combien de temps qu'ils sont.
Bon, Cannes, ça, c'est
pas mal. Cannes, ils jouent à la Coupe d'Europe. Hein. Hein,
ah, mais Cannes-Toulon, c'est aussi des équipes qui sont floues au niveau financier et avec des magouilles. C'est pas pour rien que Roland Courbis est en prison.
Ouais, mais nous, on va voir un coordinateur sportif qui a trempé dans des magouilles aussi.
Alors, Courbis, il est remonté en D1, il a trempé dans des magouilles, ça a gêné personne.
Et puis Strasbourg, c'est quand même un club flou en clou. Aussi, bon.
En tout cas, là, je pense qu'on va accélérer un petit peu parce qu'on est déjà à plus d'une heure d'émission.
On a combien ?
Une heure deux.
Une heure deux.
Bon, on va faire le quiz.
Attendez, il y a juste encore un petit. une petite rubrique.
La grève.
Alors, le public, nous, les supporters. Alors, il y a bien sûr lundi prochain ce match, le premier contre le dernier. Le Racing qui est dernier, Caen qui est premier, à la Méno, devant les caméras de cette chaîne privée. Disponible par le câble, donc le public, il y a eu cette nouvelle qui est tombée aujourd'hui d'un boycott donc par les associations de supporters, que ce soit les UB 90, le COP Célébrant, les Hansi Alsace et qui d'autre encore, il y a
les trois. C'est les trois associations.
Il paraît que c'est Ali Bloy réfléchisse.
Ali Bloy.
Il y a pas une section furie aussi.
En tout cas,
c'est pas officiel.
En tout cas,
la section furie.
Non mais
ils ont bâché à Montpellier.
Ah bon.
Bah oui.
T'étais
même à côté de sur la plage.
C'est trop possible ça. Ouais, mais je sais qu'ils y étaient.
Messieurs. Donc les trois associations qui boycottent le match contre Caen, donc qui appellent tout le public à pas venir et évidemment les membres des assos à pas venir. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est une bonne chose?
Bah déjà, est-ce qu'ils appellent tout le public à boycotter? Est-ce qu'ils disent non, nous
c'est fait le public.
Ils appellent tout le public. Hein. D'accord.
En gros, c'est ne venez pas pour montrer que
si venez, mais restez devant le stade.
D'accord.
C'est ça le truc, c'est ça le but, c'est de faire une manif au grille du stade et puis pendant le match passer au grille. Ça peut être un moment sympa d'ailleurs, hein, ça peut.
Ça peut faire 6-7 mois d'idée, c'est facile ça, normalement.
Non.
Connor.
Non, mais bah, disons que sur le principe, c'est bien. Bon, moi perso, ça me fait chier parce que ça fait un moment que j'ai pas eu l'occasion d'assister à un match. Hein. J'étais en vacances, j'étais malade, tout ça. Donc là, j'étais content de revenir à la maison. Bon, bah, je reviendrai pas, tant pis. Voilà, donc oui, je trouve ça bien. Maintenant, je vous avoue que franchement, je suis désabusé par ce qui s'était passé contre Arles. C'est-à-dire que voilà, les UB avaient demandé, justement, avaient posé une initiative hein, du style, donc c'est-à-dire un acte, on demandait la solidarité, c'est pas de boycotter tout le match, mais simplement un quart d'heure. Et là, il y a tout un tas de personnes qui ont trouvé un milliard de raisons pour dire que c'était nul. Hein. D'ailleurs, notre ami Philippe va se faire un plaisir de développer.
Bah moi, je ne suis pas pour non plus.
Ouais, toi aussi, pareil. Voilà.
Bon,
mais,
hein.
Bah, j'avoue que ce jour-là, bah, moi, il y a quelque chose qui s'est cassé. Hein. Je me suis dit... Je me suis dit,
grave. Et donc, ce jour-là, tu étais malade, comment
Non, c'est pas ce jour-là, c'est après j'ai chopé la grippe.
Mais... qu'est-ce qui s'est cassé, là?
Non, mais c'est vrai, pour la grippe.
Non, mais simplement... le fait qu'à Strasbourg, bah, on n'est même pas foutu de se mobiliser pour son club.
Ouais, enfin, un quart d'heure de... pour... enfin,
part... ouais, non, mais on va pas revenir sur le débat, voilà, tu vas me trouver un milliard de raisons, tu vas venir m'expliquer bah, que c'était
tout,
naze.
Tout le match, je le sais, mais un quart d'heure, ça vaut aucun sens. Quoi.
Bah là, tu vas pouvoir le faire. Hein.
Bah là, tu vas pouvoir le faire tout le match.
Bah pourquoi pas.
Radio Shtoum, on dirait devant la ménage.
Ah ouais, ça peut le faire.
Ça, bah, serait, attends, ça serait une idée.
Ça serait une idée, voilà.
En direct différé,
mais juste un quart d'heure.
Mais ce que je veux dire, bon voilà, on a pas été foutu de le faire pendant un quart d'heure. Je vois mal une grosse mobilisation pendant un match. Bon, bah j'espère me tromper. Hein. Enfin, on verra.
Kikas.
Ouais, moi je suis un peu dans la même optique que Conan, c'est-à-dire que effectivement il faut réagir. Je pense qu'à un moment il faut quand même qu'on montre qu'on n'est pas d'accord avec ce qui se passe. Maintenant, je pense pas que ce soit vraiment une solution. D'ailleurs, je pense pas que ce soit les supporters qui aient la solution. Malheureusement, sinon on l'aurait peut-être déjà trouvé. Donc, c'est plus un geste de désespoir. Donc, voilà, je ferai comme Conan. Hein, je serai devant le stade avec ma bière
et ton transistor.
Et mon transistor.
Et notre bonne humeur.
Et notre bonne humeur. Yulu 68.
Pareil, bon, pareil comme Conan pour des raisons. Personnel, j'allais dire, ça m'embête un peu parce que bon, j'avais prévu trouver la méno. Ça fait longtemps que j'y étais plus. C'était pour un Châteauroux avec Gilbert Grèce, donc j'avais l'idée de retrouver.
En 94, ouais.
Ouais. Mais c'est vrai que non, c'est vrai qu'il y a un moment, il faut montrer. J'allais dire, je trouve déjà que le public, on critique souvent le public de Strasbourg. On dit que c'est un public difficile, insupportable. Mais en même temps, je veux dire, moi, je me rappelle qu'il y avait eu une sorte d'union sacrée lors des 11 défaites de. Sur Lens, où vraiment il n'y a pas eu d'explosion, comme on a pu en voir à Nantes ou à Lens, quand... alors que c'est des clubs justement dont on dit souvent le public lensois qu'il y a eu des explosions de colère, des dégradations, et que bon, il y a quand même un moment où c'est bien beau de jouer les bénis oui, mais il y a quand même un moment où il faut dire qu'on en a marre, je veux dire, on s'investit, que ce soit émotionnellement, que ce soit le temps qu'on investit pour le Racing, que ce soit, bon, c'est une passion, mais y a, je dirais aussi des sacrifices de nos parts. Et à un moment, il faut exprimer ça de manière, j'allais dire, symbolique et spectaculaire. Donc oui, je suis pour.
Donc tu seras aussi avec ta bière ouais. Aux portes du stade de la Méno. Ouais.
Alors juste un petit truc, parce ouais. Que c'est un ganif d'un stubiste, Andros. J'avais décidé de l'inviter pour son anniversaire au match de Caen. Bah, ça m'arrange en fait. D'ailleurs, ce boycott.
Voilà.
Tu payes une bière,
tu payes
un pack
de bière.
Voilà, devant le stade. Voilà.
Ouais, ça lui plaira, je pense.
Voilà, parfait.
Et des clopes.
Bah, et Philippe, toi
Bah, moi, je me pose la question, en fait.
Sac jaune.
Toi aussi, tu te compromets encore une fois.
Pour en revenir justement à ce que disait Conan contre Arles, moi, je trouvais que c'est... Enfin, il y avait deux choses qui me dérangeaient. La première chose, c'était qu'on était au bout de 3 ou 4 journées, qu'il y avait encore pas mal d'espoir. Enfin, en tout cas, moi, je considérais qu'il y avait encore pas mal d'espoir pour la montée.
On était jeunes et naïfs.
Et oui, je vois Conan, l'œil narquois.
L'œil de Moscou.
Et puis la deuxième chose que j'ai pas appréciée, c'est que finalement, contre Arles, il n'y avait aucune cible définie. On ne s'en prenait pas trop à Ginesté parce que les relations entre Ginesté et les groupes de supporters sont quand même, a priori, assez bonnes, donc c'est un peu compliqué de s'en prendre à lui. On ne s'en prenait pas trop aux joueurs parce qu'on était en début de saison, on ne s'en prenait pas trop à Grèce parce qu'évidemment, c'était un peu la cible. C'était assez compliqué de s'en prendre aussi à lui. Donc en fait, c'était un peu flou. Et donc, mais là, par contre, pour le match de Caen, c'est vrai que c'est différent, puisque bon, maintenant la saison, je pense qu'on est à peu près tous d'accord pour dire que la saison est foutue. le nom de Ginesté, quand même, un nom qui revient assez souvent, même dans la bouche des plus fervents supporters, notamment des UB 90. Donc, je pense que là, on est dans une situation effectivement quasi jamais vue. Donc, effectivement, le fait qu'il y ait un boycott annoncé et attendu contre Caen, ça me choque moins que contre Arles. Donc, effectivement, moi, j'ai pas spécialement envie d'aller voir le match contre Caen et
tu viendras boire des bières avec nous.
Oui, c'est pas impossible que je reste effectivement à l'entrée du stade, quoi, parce qu'effectivement là, à ce niveau-là, maintenant.
C'est bien, t'as un bon.
Ouais, je sais pas, c'est pas la question.
Il est des nôtres.
Il a besoin de boire des bières devant le stade.
Conan.
Ouais, j'ai quand même deux satisfactions par rapport à ce mouvement. D'une part, c'est un mouvement pacifique.
Pour le moment,
ouais. Non, mais c'est voilà, ça a rien de, comment dirais-je, de se prendre des problèmes judiciaires à cause de ces mecs. Et deuxième chose, qui me paraît assez intelligent, je trouve ça pas mal qu'on s'en prenne pas directement aux joueurs, qu'on allant en stade en les sifflant, en les insultant. Parce que effectivement, ça a été dit assez intelligemment, notamment par des dirigeants UB sur le forum du Stoum. C'est les joueurs, voilà, il y a que 7 matchs qui ont été joués, il en reste 31. Donc quoi qu'il arrive, ces joueurs-là, on va se les taper jusqu'à la fin de la saison. Donc c'est eux qui ont la clé, donc ça sert à rien de se les mettre à dos.
Et voilà. Puis pour les joueurs, bon, on peut critiquer leur talent technique et physique, mais au niveau de la mentalité, enfin au niveau du, ça n'a pas été les pires, quoi. Je pense que des Belaïdes, que des Cassars, que des Lacos, même que des Sikimic qui pourtant fait un début de saison catastrophique. J'ai pas l'impression que Sikimic a une mauvaise mentalité dans l'absolu. Donc,
super mentalité Sikimic.
Donc c'est ça qui est un peu triste d'ailleurs, c'est qu'on a.
Ah, c'est pour.
C'était ironique, ça.
Non, c'est pas ironique. Hein. Moi, je sais pas si t'as lu son interview dans les DN. Ou...
C'est pour dire que c'est ça qui est apporté, voilà. C'est qu'on a un groupe de joueurs pas de type pas si mauvais que ça au niveau de leur vision des choses, mais bon, voilà, ça marche pas, quoi. Donc.
Bon, après, c'est l'éternelle question. Je veux dire, voilà, il y a quand même un côté simplement inadéquation avec ce que je disais, mais c'est vrai qu'il y a quand même un côté un peu jamais content, parce que voilà, je veux dire, si on avait maintenant des truqueurs, des tricheurs, des mecs qui font des clips de rap,
Johansson.
Voilà, ouais, et qu'on avait quelques résultats, on arriverait encore à râler, et là on a des mecs sympas qui ont peut-être ce qu'on appelle toujours les valeurs racing, mais qui ont pas le niveau, quoi.
Ouais, moi j'allais dire même les starlets étaient largement meilleurs que les tâcherons qu'on a maintenant, quoi. Et pourtant on s'est plaint pendant des années d'avoir des joueurs qui respectaient
pas
le
niveau. Mais c'était pas bon non plus. Bon,
ils étaient meilleurs
par rapport aux objectifs qu'on a. Oui, on était pas relégable en ligue de ça.
Finalement, il y a un joueur qui est un peu le symbole, hein, de notre racing, c'est David Lely, je crois. C'est un mec, il a, enfin, tu lis ses interviews, tu vois ses interventions à la radio, il a une super mentalité.
Il vient du 6-8.
Voilà, 6-8 en force.
C'est peut-être ça le problème.
voilà. Après, sur le terrain, bon, il est gentil, David Lely.
Il a mis un super but.
Mais c'est le problème.
Je suis content qu'il marque. Hein, mais...
Moi, je suis totalement d'accord avec toi. Je reproche rien à David Lely. Mais que voilà. Ce mec qui débarque quand même de CFA.
Soit titulaire au Racing.
Voilà. Ça prouve que. Et qu'en plus, ne démérite pas forcément. Parce qu'il plante. Bon, il fait pas des super matchs, mais il a quand même planté.
Ouais, mais on voit que le gars, il en veut, qu'il fait de son mieux.
Voilà, bah, je crois qu'on va clore sur
David Lely. Tu fais la gaffe, Paolo.
Je suis très fan du buvage de bière devant le stade, donc ouais.
D'accord.
Je pense que ouais.
Ok.
Bah, ça me paraît, si tout le monde le fait, hein.
Si
c'est collectif, s'il y a quelque chose de. Moi, j'ai envie que ce soit tout le monde ensemble, si vous voulez. C'est pas tellement bon, l'action est décidée comme ça, mais ça aurait été une réaction autre, mais collective de tout le public, ça m'aurait plu autant, quoi. Après, je sais pas quoi, mais l'important, c'est vraiment.
Ah, mais c'est peut-être l'occasion de passer un moment sympa, en plus. Hein.
C'est l'occasion, éventuellement, de ramener des radios, de faire les cons sur des clips.
J'espère qu'il y a
des clips, mais sur. Non, sur des. Ouais, sur des clips de rap.
Tu ramènes ton Porsche Cayenne.
Non, mais de ramener, je sais pas, comme. Contre Lyon, là, à l'époque, quand on perdait 4-0 et que dans le COP on avait mis la sono avec des titres de Carlos, Cordy, des conneries.
C'était rigolo, ça.
Ouais, mais qu'on se marre, quoi. Qu'on se marre.
Ouais, mais le truc, c'est que là, les gens, ils ont peut-être pas trop l'esprit à rigoler.
Bah oui, mais bon, en même temps. En même temps, voilà, il faut aussi.
Faut pas dramatiser non plus. C'est que du foot.
C'est que du foot, voilà.
Le foot, c'est.
C'est que du foot, mais c'est. Voilà.
C'est du foot. On fait le quiz.
Alors, le quiz, voilà, maintenant, on passe au jeu du Stoub. Préparé ce soir par Conan à nouveau. Donc merci à toi.
Il marche plus ?
Non.
D'accord.
Il y a de Philippe là.
Voilà, donc c'est une organisation très professionnelle. Très professionnelle à l'image du Racing.
C'est des trames de tellement de.
Donc, ouais, c'est ça. Donc, je.
Voilà.
Ah, ça, c'est le quiz.
Allez, c'est parti.
Alors, c'est le quiz. Alors, c'est un quiz hein, que j'ai concocté.
Avec Gigus à côté de toi, il va lorgner.
Alors, Gigus, hein, tu lorgnes pas.
Ouais, je me suis obligé de me mettre face au micro, sinon Philippe m'engueule.
De toute façon, j'écris tellement mal, t'arriveras pas à trouver.
C'est parti.
Alors le quiz, hein, c'est... j'ai pensé à ce quiz parce que je sais pas si je sais pas si vous avez regardé depuis hier ou avant-hier, il y a une nouvelle fonctionnalité sur le Shtoub.
Non, je connais pas.
Quelle est la dernière nouveauté sur le Shtoub? C'est un truc génial.
Je sais pas.
Ça va que vous lisez vachement le forum.
J'ai vu mise à jour, t'as mis c'est hein génial, il manque le Partisan Belgrade, mais après je sais pas ce que c'est.
D'accord.
Faire ouais des clips de rap.
Non, parce qu'en fait vous avez les... quand... vous cliquez sur un joueur, ou un ancien joueur du Racing, vous avez tous ses clubs, avec le blason du club.
Ah oui.
Et maintenant il y a un lien vers Google Earth, en fait vous avez le plan de l'endroit où il a joué, vous avez tout le plan, vous avez une carte du monde, avec tous les points où il a joué, en fait, les clubs où il a joué. Par exemple, quelqu'un qui a joué aux États-Unis, au Brésil et tout, il y a la photo du plan. Et après, en cliquant sur le club, c'est comme sur Google Earth, vous voyez le stade, vue aérienne du stade où il a joué. Donc, quand vous avez des anciens joueurs, un joueur qui a, par exemple, joué, je sais pas, genre KF a joué à l'Inter, vous rapprochez, vous faites un zoom là sur Google Earth, sur le logo de l'Inter, vous voyez le stade de
Santiago. Sur Google Earth.
Google Earth. Ouais, bon, j'ai un très bon accent en anglais. Franchement, je vous incite à... C'est complètement inutile hein, comme truc, ouais, mais c'est génial.
D'accord, voilà. Moi, c'est un peu comme un iPhone, quoi.
Voilà, moi, je me suis... Moi, j'ai passé une soirée... Bah, hier soir, j'ai passé ma soirée à m'amuser à ça, quoi.
D'accord.
Voilà.
Donc, les soirées fantastiques de Conan,
voilà. Ah, mais sérieux, quoi, c'est...
Ah, mais...
quelque chose de fabuleux.
Allez, le quiz.
Et donc, bah, pour rendre hommage à cette fonctionnalité, j'ai...
Le nom des stades des anciens joueurs.
Non, pas le nom des stades. On va se contenter des... En fait, je vais vous citer des clubs. Mmh. Et il faut me trouver le joueur de l'effectif actuel du Racing.
Actuel.
Ouais. De l'effectif actuel du Racing qui a joué dans ce club. Donc, d'accord, vous citez un club, ouais, vous me trouvez le nom. Et sachant que, bon, vous avez 9 questions comme ça. Et après, vous avez... qui valent 1 point. Et après, vous aurez 3 questions à 3 points.
C'est quoi
ça? Ça s'appelle le jeu du Survivor.
On va finir à minuit là, quoi, avec tes conneries.
Alors, le Survivor, je vous expliquerai les règles là.
D'accord. Mais donc, c'est tout le monde répond en même temps?
Alors, première question, ouais, c'est tout.
Allez.
Première question, c'est tout le monde, c'est le
premier. Let's get slow.
Alors, quel joueur actuel du Racing a joué à l'AEK Athènes?
Rodrigo.
C'est. Julio.
Execo.
Je sais pas.
Moi, je dirais Execo.
Moi, je dirais Philippe, mais.
Ah, j'y ai Execo,
allez. Execo.
Ouais, ça commence déjà à tricher, quoi. Tu leur mets 2 points chacun, c'est ça?
Non, 1 point.
Bon, bah, on est à la rue déjà, à
Ligas. Alors, un partout. Hein. Donc ouais, il a joué, ça a été son premier club européen, qui est Athènes. Faut savoir que Rodrigo, il était en équipe olympique avec Ronaldinho, du Brésil. Et donc, c'était un très grand espoir brésilien. Et...
Il jouait où au Brésil, en fait? C'était quoi son nom?
Je me rappelle plus, j'avoue.
Non, mais je veux dire, c'était pas un grand club brésilien.
Comme quoi que c'est un...
On enchaîne peut-être.
Tu peux parler, on discute.
Non, mais on est déjà à une heure.
Ah ouais, bah t'as parlé de Grèce là pour une minute.
Oui.
Bon, quel joueur actuel du Racing a joué à Guignon?
Ah merde, je sais, mais je sais plus.
Pelé.
Ah bien. Ouais. Bien vu.
Steven Pelé. Et il a joué un match à Guignon. Après, il a été formé à Guignon. Et genre, il avait 17 ans, il a joué un match. C'était le seul match qu'il a joué pour Guignon. Troisième question. Quel joueur du Racing actuel a joué à Lokeren en Belgique?
Lokeren.
Lokeren.
Oh, ça s'est fait un black.
Oh, aïe.
Club, club belge.
C'est souvent des Ivoiriens ou des
Québec?
Non.
Bezaz?
Non.
Jadjedj?
Non.
Non, il est plus au club d'ailleurs.
Plus au club.
Fauberg?
Non.
Non. On va tous les faire.
Sikimic?
Non.
Non, pas Paysho.
Kitter?
Non.
Oh putain, je sais pas qui y a dans l'équipe.
C'est un joueur qui joue pas.
Coréa. Ça, c'est les joueurs.
Coréa.
Je crois qu'on peut pas vraiment accorder.
Bah si. Coréa.
Est-ce qu'il est vraiment dans l'effectif actuel?
Ah, il est dans l'effectif pro du Racing. Et il a joué à Lokeren en Jupiler League.
Pourtant, Lokeren a sorti des bons joueurs quand même.
Ouais, Coréa.
3-3-1-0-0.
Ouais. Quel joueur? Tu triches pas, hein?
Non, mais j'ai rien vu.
Quel joueur a joué à Laval?
Pichot. Formé à Laval,
Pichot. Ouais.
Il a joué quelques saisons là-bas. Donc Philippe, 3-2.
Je crois que je suis pas en forme.
Ah, vous êtes pas en forme, hein, vraiment, à l'image du Lens. Alors là, on va faire dans le punk. Qui a joué à Chantilly?
C'est peut-être un jeune, ça.
Kébé?
Non.
Bas?
Non.
Auton?
Non.
Fauberg?
Non.
Lady?
Kitter?
Non.
Non, c'est... Ah, s'il a dit dans le punk, alors faut penser punk.
C'est pas vraiment punk. Hein.
Pensez punk.
Sikimich.
Non.
Bah non,
Sikimich. Chantilly, à côté de Belgrade.
Il y a qui comme jeune? Ça doit être un jeune, je pense.
Abadi.
Non.
Kassar.
Non.
Oula. J'ai même plus en tête les joueurs.
Gaï. Non.
Bezaz.
Non.
Chantiter.
Non.
Bon, il
Gargour.
Non.
Et à court.
Non.
Même pas.
Non.
Merde, j'en sais rien. Non,
mais... Ah, Begaïde.
Non.
Même pas.
Non, non. Gasmi. Mais vous avez raison, c'est un jeune. Hein. C'est un jeune, mais il a joué quelques matchs l'an dernier.
D'amour.
D'amour.
Ah, merde. Eh ben, dis donc.
Ah,
putain, il me fait chier, lui.
On l'invitera plus. Gamero, il était pas aussi Chantilly, d'ailleurs.
Ah, je sais pas, je crois, oui, il me semble. Mm. Qui a joué à l'Espérance de Tunis?
Kémandia.
Non. Bezaz. Non.
Ah, Marcos.
Marcos.
Oh, putain, mais
c'est fort.
Ah, c'est... aujourd'hui non, c'est pas
fort. Bon. Hein. Là, Gigas.
Moi, j'attends les questions à 3 points, moi.
Gigas, c'est quoi?
Pour me venger, je suis en train de casser la table de Philippe.
Qui a joué à Frigi Agbe?
Quoi? Bezaz.
Non. Frigi Agbe.
Kébé.
Non.
Gay.
Non.
Coréen. Kébé.
Non.
Ouais, ça peut être deux fois le même.
Comment?
F R G-U-I-A-G-B-E.
Et c'est si
Rodrigue.
Non, mais si tu le dis, peut-être on va trouver.
Ah, c'est un club célèbre. Hein.
Bah, Mamadou Ba.
Mamadou Ba.
Ah
Paulo. C'est en.
Enfin, Guinée.
Oh, putain, merde. Ah.
Il a joué là-bas.
Bravo, Mamadou.
Alors, il en reste deux avant le Survivor.
C'est fou parce que moi je compte sur les trois points.
Qui a joué au Guarani Asuncion?
Marcos.
Marcos.
Ah,
ouais. Enfin, ouais, honneur.
Guarani Asuncion.
Le Guarani Asuncion.
C'est, tu dirais un cocktail.
C'est quoi, au Paraguay, ça?
C'est au Paraguay.
Tu dirais un truc avec du Curaçao. Ouais.
Il a joué à...
Avec du Guarani.
Il a joué au Paraguay deux saisons. Et justement, sur le, je me suis amusé notamment à voir le stade du Guarani Asuncion. Il est pas joli. Hein. Parce d'accord. Que c'est un club qui joue en jaune et noir et les tribunes sont rouges et bleues. Ça c'est rigolo.
Ça fait d'accord. Mal aux yeux, je pense.
Et la dernière question, encore un club punk. Qui a joué au Havre?
Pierre
Cassar.
Cassar.
Ah bah oui, Cassar. Ouais.
Pierre j'ai... Ducrot, il est un machin là.
Ouais, je sais.
Ouais.
Ouais,
ouais. Alors Youliu, Youliu domine. Il a 5 points. Philippe a 3 points. Paolo et Gigas ont 1 point.
Ça suffit.
Donc. Nous avons les trois dernières questions Survivor. Alors, les Survivor, je vous explique le principe. Donc, on a joué, il y a pas très longtemps, on a joué contre Nantes.
Ouais,
okay.
Malheureusement.
On a joué contre Nantes. Alors, je précise bien les règles hein, avant que vous vous lanciez. Bon, le but du jeu, je vous demande tous de vous taire, hein, c'est de trouver des joueurs qui ont porté le maillot de Nantes et de Strasbourg.
Okay.
Comporter les deux maillots.
Et c'est à tour de rôle ou...
Et c'est à tour de rôle. Et donc c'est ceux qui ont moins de points qui commencent.
Mais actuel, les joueurs actuels.
Actuel ou ancien.
Ah, qui ont porté les deux maillots.
Ok. Donc à chaque.
Ouais, je vois.
À chaque tour. Donc par exemple, c'est Gigos qui a le moins de points, c'est Gigos qui va commencer. Après c'est Paolo. Après c'est Philippe. Après c'est Yuyu. Et après ça retombe sur Gigos, Paolo. Et à chaque fois que vous vous bourrez, vous êtes éliminé. Et le dernier qui reste, il gagne 3 points.
Oh putain. Et il y a 9 points, t'as dit.
Ouais, parce que bah, là, c'est... il y avait trois questions.
Survivor.
Survivor. Alors, Nantes, Gigas, donne-moi un joueur qui a joué à Nantes.
Bagayogo.
Bagayoko, d'accord. Paolo.
Yves Deroff.
Yves Deroff.
Ah, merde.
Philippe.
Farias. Non.
Non.
Non, non.
T'es éliminé. Ah, t'as droit qu'il y a une réponse. Hein.
Ah, putain.
Youliu.
Dur, hein.
Ah merde,
putain. Stéphane Paille?
Non, éliminé.
Merde.
Gigas?
Bah, Chérini, hein.
Chérini, très bien. Chérini, j'avais même pas noté d'ailleurs. Chérini.
Le plus simple.
Paolo?
Alors, réfléchissons. 2 secondes. On a combien de temps? On a combien de temps?
On souffle pas, Yuyu.
Mais c'est peut-être.
On a combien de temps?
Bah, il nous reste peu de temps, hein. C'est toi qui disais de dépêcher.
Ouais, bon, une seconde là.
Alors, j'accepte les stagiaires aussi.
Oh, ça, c'est sale.
on va dire au hasard.
Attention, hein, si tu te plantes, c'est Higuez qui remporte les 3 points.
Ouais, je sais, mais j'ai pas d'idée, en fait. Attends une seconde.
Je crois que c'est mort. Hein.
Kamadini.
Ah non, donc Gigas emporte les 3 points brillamment. Donc,
Eric Pécou, ça marchait.
Il y avait Eric Pécou. Oh, ouais,
Eric Pécou. J'ai confondu Eric Pécou et Stéphane Paille.
Il y avait Eric Pécou.
Et il y avait celui qui a fait perdre la finale de Coupe de France.
Oui, c'est vrai. C'est
Ramon Muller.
Ramon, voilà. Ramon Muller.
Ramon.
Il y avait Jean Prou. Il y avait Georges Van Stralen. Il y avait Eric Pécou, hein, sur lequel il y avait
magnifique
article. Il y avait Xavier Gravelaine, qui était stagiaire à Nantes. Bon, il a jamais joué à Nantes, mais je l'aurais accepté parce que.
Pour parce la que classe. C'est exact.
Il y avait Jean-Pierre Bade. Il y avait Philippe Tiss qui a joué à Nantes.
Ouais. Ah ouais.
Et il y en a un que vous avez oublié, il y avait Jacques Rémy qui a joué quelques matchs.
Ah oui, c'est vrai. Je n'aurais pas su ça.
C'était un oubli volontaire.
Voilà, Jacques Rémy.
C'était un refoulement.
Alors, vous avez compris le principe? Ah, qu'on va faire le
avec
même.
Clermont.
Avec Clermont, on va faire le même. Non, on va faire le même avec Clermont. Sachant que c'est Paolo qui a le moins de points. Donc, ça, l'ordre, ça va être Paolo, Philippe, Gigas et Yuliu.
Sachant que.
Alors, des joueurs qui ont porté le maillot de Clermont et du Racing.
Bah, Ekobo déjà.
Oh putain. Ekobo, d'accord.
Oh putain.
Philippe.
Oui, oui. Bon, bah voilà. Attends, voir. Clermont.
Déjà, des joueurs. Si on... Même rien que des joueurs de Clermont comme ça, c'est quasiment impossible.
J'en sais rien. Je sais pas.
Tu passes?
Ouais.
Ok. Je te dis, il y en a un, c'est bon, toi, que t'es pas trouvé.
Mmh.
Okay. Donc, c'est à Gigas.
Basile Boli.
Non. T'as limité. Yuliu.
Martins.
Corentin Martins.
Ah, putain, bon, c'est vrai qu'il a.
Ouais, oh, il a joué 2 matchs, il était
mort de
béquilles. Ah, bah, des béquilles.
Paolo. Ah, c'est trouvable. C'est punk, mais c'est trouvable. Mmh, mmh.
Et le pire, c'est qu'il y en a 5 ou 6. Oh putain, il y a des
perles.
Il y a Jacques Rémy?
Non.
Non, bon, tant
pis. Elle a été éliminée. Donc c'est Yuliu qui a.
Perbet, ça marchait?
Perbet, ça marchait.
Il y avait pas aussi Pelé?
Non.
Ah non.
Et Carlier?
Il y avait Rudy Carlier.
Ah ouais, exact.
Il y avait.
Rudy Carlier, tiens.
Il y avait David Mbouji.
Celui-là, il est beau aussi.
Il y avait Bruno Rodriguez. Il y avait Jérémy Perdet. Et il y a Khaled Carson.
Et mais d'ailleurs, Rodriguez, il était pas passé à Nantes à un moment?
Non.
Je crois qu'il a jamais joué alors.
Parce que Rodriguez, ça marche quasiment.
La dernière pour du beurre, parce que Yuliu a gagné le quiz. Hein, il a largement d'avance. C'est de trouver des joueurs qui ont joué à Caen et au Racing.
Ah, ça, c'est facile.
C'est facile, le premier.
Alors, Paulo.
Gravelaine.
Ah, par contre, c'est moins facile.
Ouais, là, c'est moins facile.
Si, il y en a, c'est
Perron. Perron, très bien.
Moi, j'en ai un facile aussi.
Ouais, un facile, ouais.
Alors, Gigas.
Bah, Candia Traoré.
Candia Traoré, d'accord.
Mostovoy.
Mostovoy.
Ah, merde, ah putain.
Facile.
Paulo.
Bah.
Ah, il y a du mythique, hein, il y a du lourd, hein.
Aïe, 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 aïe. Je sais pas, Dall'Olio.
Bah, non.
Bah, j'en sais rien.
Ah, tes conneries. Philippe.
Etamé.
Etamé, Jean-Jacques Etamé. Gigas. Un mythique.
J'avais envie de dire Sanson, mais je crois pas.
Non, pas Sanson.
Mais un gardien.
Un gardien, ouais. Même deux gardiens.
Ah, lui, il a joué?
Lui aussi?
Oui.
Non, mais
je regarde la liste.
Bah, tout le monde est éliminé, hein.
Non, ouais, attends, j'en ai encore, moi. Enfin, j'en ai encore.
Il reste Yuliu.
Merde, ça Yuliu.
Dutruel.
Oh, putain. Dutruel, ouais.
Ouais, non, mais pourquoi c'est lui qui joue d'abord?
Bah, parce qu'il a plus de.
Mais non, il joue en dernier, en fait.
Bah, non, tout à l'heure, c'était ceux qui avaient le moins de points qui jouaient.
Mais c'était à mon tour.
C'était à son tour.
Hein, c'était à son tour.
Le gardien, c'est Chilavert.
Allez, Philippe, il y en a un, tu le trouves encore. Il y en a un, c'est trouvable.
Ah oui. Ah oui. Ouais, mais alors il y en a un qui marche pour tous les clubs.
Ouais. On l'a pas encore dit? Si, il l'a dit en premier.
Gravelaine, on l'a dit, ouais.
Ouais, Gravelaine.
Non, mais.
Ah, non, on l'a dit.
Espèce de Gravelaine.
Alors il y en a un.
Gravelaine du pauvre.
Je connais un attaquant.
Rémy? Non, il a pas joué.
Jacques Rémy!
Oh putain.
Ah oui!
Le Gravelaine du pauvre.
Oh putain, c'est à moi.
Ouais.
Oh putain.
Non, mais c'est fou parce que quand il. Ah ouais, mais
il y en a un, c'est énorme, vous l'avez pas trouvé.
C'est très intéressant comme jeu, ça, Conan.
Ah, c'est pour ça que je le fais. Hein.
Régis.
Comment ?
Régis ?
Ah non, bah Philippe qui a les 3 points. Alors il y en a 2 qui ont eu l'honneur de d'article sur l'Ochtoub. On va voir si vous avez les trouvés. Bon, Gigas a lu les réponses.
J'ai les réponses.
Je vais prendre un petit favorini.
Un favorino, non c'est pas.
Favorini.
Bon, je suis sûr que c'est des joueurs énormes en plus.
Ouais.
Bon, on a déjà cité.
Bah, il y en a un qu'on a cité tout
Mister
à l'heure.
Roy, ouais.
Non, un autre.
Un autre. J'ai eu un article il y a pas longtemps.
Ah, Pécou.
Ouais. Pécou, ouais, a joué à Caen.
Ah ouais.
Et il y en a un autre qui a eu un article. À mon sens, le meilleur article que j'ai écrit pour le show.
Ah, bah oui, Pascal.
Ah, bah Pascal Nouma.
Ah, mais oui, oh putain.
Pascal Nouma.
Bah oui.
Eh bah, Pécou, Nouma. Sinon, vous avez oublié Jean-Marie Aubry. Qui a joué à Caen. Il y a eu Vincent Petit qui a joué à Caen.
Ah oui, exact.
Et sinon, il y
a. Et Lasserre aussi, non? Non, il a pas joué à Caen.
Non,
il a marqué un but.
Il a pas marqué un but incroyable contre Caen. Et sinon, il y a eu Franz Mayer et Franz Schlupek. Ça, c'était dans les années 30, ça. Voilà, donc le quiz, les résultats du quiz. Dernier, Paolo avec un point.
Qui a sauvé l'honneur?
Après, Gigos, 4 points. Philippe, 6 points. Et Youliou, le grand vainqueur, avec 8 points. On a perdu Youliou, 60. Il est bien ce quiz, hein?
Très bien.
Très bien.
Bon, le mot de la fin?
Bah écoute, merci déjà. Déjà merci. déjà merci pour le quiz qui était très sympathique, hein, comme souvent. Je sais pas le mot de la fin, que dire, hein.
Les racines.
Ah, ouais. Est-ce que vous avez un mot de la fin? Je fais un petit tour.
Du latin.
Youliou?
Du latin un peu.
Vas-y.
Oui, donc c'est la devise des. Une devise de la Renaissance et de la Réforme. Donc comme je suis dans une ville maintenant de Réforme, par rapport à Mieux, il faut que je me fasse. Donc c'est Spero Lucem. Non, post tenebras, Spero Lucem. Donc après les ténèbres, ouais. J'espère la lumière.
Voilà, bah, ouais. C'est tout ce qu'on va. Conan?
Oh, moi, ça sera un vieux pieux, hein, un vœu pieux également. Oui, c'est que. Voilà, que c'est que tout le monde tire dans le même sens.
Putain, on allait finir sur une devise de la Renaissance.
Ouais, mais bah,
regarde, ça finit sur du.
Avec la Renaissance, et que le Racing renaisse rapidement de cette cendre.
Gigas!
Non, moi je peux rien rajouter derrière une conclusion comme ça.
Philippe.
Non, bah pareil quoi. Vivement qu'on monte un peu au classement et puis voilà. Vivement la fin de la saison surtout en fait.
Voilà, c'est super de dire ça au mois de septembre. Enfin, c'est vrai que là c'est pas facile. En tout cas, tout simplement et comme toujours et pour oui pour toujours. Hein, allez Racing.
Allez Racing.
Allez Racing.